Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pour une nouvelle édition d'Europe Midi que j'ai le plaisir de vous présenter avec Maxime Switek. Bonjour Maxime.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous.
Et en compagnie d'Anissa, bonjour Anissa.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous.
À la une du journal Le Monde qui paraît aujourd'hui, enquête sur la start-up Macron. Le ministre de l'économie, est-il écrit à la une du journal, suscite de nombreux fantasmes pour l'élection présidentielle de 2017. Allons bon, Macron candidat à l'Élysée. Et sur quoi prospère ce fantasme? Pas sur son expérience politique, parce qu'il n'a jamais été élu ce gentil garçon. Pas non plus sur son expérience de la vie, parce qu'il est passé pratiquement directement de la banque Rothschild à Bercy. Alors, on dira plutôt que le fantasme Macron se nourrit du vide de François Hollande, de l'agitation perpétuelle de Nicolas Sarkozy et de la démagogie outrancière de Marine Le Pen. Autrement dit, aujourd'hui on dit pourquoi pas Macron, mais demain, la question à laquelle il faudra répondre, ce sera pourquoi Macron ? Europe Midi, c'est parti.
Vous écoutez Europe 1 et à ma montre Seiko Astron, il est exactement midi. 14h, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek sur Europe 1.
À la une de l'actualité, le coup de poignard de John Kerry, le secrétaire d'État américain, pour lui. Les engagements que prendront les États lors de la COP21 ne seront pas contraignants. Une position que regrette Laurent Fabius, mais qui risque de compromettre le succès de la conférence environnementale. Les autres titres de l'actualité avec vous, Maxime Switek.
Platini absent. Michel Platini ne figure pas dans la liste des candidats retenus par la FIFA pour la présidence de l'organisation. Est-ce une décision définitive? Est-ce un nouveau coup dur ou un simple contretemps pour le Français? Réponse à midi 10. Midi 20, il n'y a quasiment plus que pour acheter une voiture neuve en France. Les seniors, l'âge des acheteurs s'est envolé ces dernières années. En moyenne, 55 ans, les jeunes désertent les concessions automobiles. Également à la une classe de CP sans prof. L'institutrice est absente, sa remplaçante aussi. Ça se passe à Paris où, d'après les parents d'élèves et les syndicats de profs, il n'y a plus un seul remplaçant disponible. L'éducation nationale a flux tendu. On verra ça à midi et demi. Et puis 12h40, James Bond crève l'écran. Il réalise le meilleur démarrage de tous les temps pour un film en France. Jamais aucun film n'a fait mieux.
Jamais.
Force James Bond.
Ah, trop fort James Bond. 12h50, Nicolas Canteloup, revue de presse. 13h10, nous attendons vos témoignages sur l'actualité. Vous composez le 39-21, nous dialoguons ensemble à partir donc de 13h10. Et vous nous direz si vous avez acheté ou non des voitures neuves, si vos enfants ont ou non un professeur ou un instituteur devant eux quand ils sont en classe. Et puis, si vous avez vu le dernier James Bond, n'hésitez pas. La météo, bonjour Nathalie Rioué.
Bonjour Jean-Michel et bonjour à tous.
C'est votre retour, nous sommes très heureux de vous accueillir.
Merci,
on a longtemps que
heureuse.
Nous ne vous avions pas vu.
Oui.
Et le mot d'ordre aujourd'hui, c'est attention au brouillard.
Eh bien oui, à l'heure où je vous parle, la visibilité est encore très réduite avec des brouillards tenaces. Soyez prudents hein, dans le Val de Saône, la vallée de la Garonne, en Île-de-France. Et puis des brouillards, des nuages bas qui nous maintiennent dans une grisaille compacte près des côtes méditerranéennes, surtout entre le Var, le Roussillon, ainsi qu'en Corse où seuls les sommets sont dégagés. Sinon le ciel sera voilé cet après-midi ou encore très nuageux. Surtout près de la Manche. Le tout dans une certaine douceur, Jean-Michel.
C'est très gentil. Nous vous retrouvons, Nathalie, à la fin de ce journal pour un point complet sur la météo.
Europe Midi sur Europe 1.
Nous sommes à 15 jours de l'ouverture de la conférence internationale sur l'environnement qui se déroulera à Paris et le secrétaire d'État américain John Kerry vient de semer une sacrée pagaille.
Mais oui, John Kerry dit ceci, même si un accord est trouvé lors de cette COP21, il ne sera pas juridiquement contraignant. En clair, il ne se passera rien si les États signataires ne respectent pas leurs engagements. Lors d'Autriche, est-ce que John Kerry ne vient pas tout simplement de tuer la COP21?
Eh bien, ça y ressemble, hein, oui. En tout cas, la déclaration de John Kerry sème le doute, hein. Le secrétaire d'État américain dit oui à un accord universel, mais pas contraignant. D'abord parce que le Congrès américain refuserait de ratifier un accord contraignant sur le climat. Déjà, à l'époque du protocole de Kyoto, en 1997, les États-Unis avaient refusé de signer parce qu'ils ne voulaient pas se faire dicter leur politique par des règles internationales. Alors ça, c'est pour la situation interne aux États-Unis, mais ce que dit John Kerry, cela révèle aussi la réalité des négociations de la COP21. Ces derniers jours, certains négociateurs le reconnaissent. Si l'on veut un accord, il ne faudra froisser personne, aucun des 195 pays, quitte à devoir faire des concessions. Et évidemment, la France aujourd'hui est très embêtée. Elle qui promet depuis des semaines, des mois, même que l'accord qui sera conclu à Paris sera universel et contraignant et qui en a fait un leitmotiv. Désormais, plusieurs experts sont plus prudents, on le sent. Hein. Ils disent qu'à Paris, la COP21 servira à mettre en place un cadre, des règles de confiance validées par tous les pays, mais que beaucoup de choses resteront à faire ensuite et il faudra notamment que les 195 pays revoient leurs ambitions à la hausse tous les 5 ans.
Alors comment la France, qui organise cette COP21, réagit-elle à cette déclaration fracassante de John Kerry ? Je vous propose d'écouter la réaction, la réponse de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères.
J'ai eu mon ami Kerry qui m'a appelé hier. Il faut que les choses soient bien claires. On peut discuter de la nature juridique de l'accord. Est-ce que ça doit être un traité, un accord international ? Bon, c'est des dispositions entre juristes. En revanche, le fait qu'un certain nombre de dispositions doivent avoir un effet pratique, être juridiquement contraignantes, c'est une évidence. Donc ne confondons pas, c'est peut-être ce qu'a fait M. Kerry, la nature juridique de l'accord, encore une fois, traité international, et puis le fait qu'il faut évidemment que les dispositions sur lesquelles nous allons mettre d'accord, elles se traduisent dans les faits. Ce n'est pas une discussion politique en l'air, c'est un accord réel dont il s'agit.
Voilà, Laurent Fabius au micro de William Galibert. Lord d'Autriche, je me retourne vers vous. Comment vous comprenez ce que dit Laurent Fabius ?
Laurent Fabius la joue sur les mots, clairement. Traité, accord, il dit que les dispositions seront contraignantes, que chacun transposera les mesures dans sa propre législation, à sa manière, selon ses propres règles. Bon, bref, le risque, c'est d'avoir un accord, ça certainement, mais vidé de sa substance.
Lord d'Autriche, spécialiste environnement à Europe 1.
Bonjour Brice Lalonde.
Bonjour.
Vous avez été ministre de l'Environnement et vous êtes conseiller spécial pour le développement durable à l'ONU. Vous êtes très impliqué dans cette COP21. John Kerry vient de la tuer.
Qu'est-ce que c'est que cette blague ?
Quelle blague ? Il dit que ce ne sera pas contraignant.
C'est pas une blague. On sait depuis toujours que ce n'est pas contraignant.
Ah bon ?
Les grandes dispositions internationales des Nations Unies ne sont guère contraignantes. Regardez ce qui s'est passé à Kyoto. Le Canada s'y est retiré, on ne lui a pas envoyé les gendarmes.
Mais Laurent Fabius dit que c'est contraignant. Donc il y a bien des accords, au moins Fabius Kerry, ça on en est sûr. Hein.
Écoutez, il y a des pays qui voudraient que ce soit contraignant.
La France.
Ils voudraient tous. Les citoyens voudraient que ce soit contraignant. Alors, essayons de voir quelle est la différence. Ce qui devrait être contraignant et qui sera peut-être accepté à Paris, c'est le fait que c'est la transparence, c'est le fait qu'on puisse vérifier ce que fait chaque pays.
D'accord.
C'est le fait que, par exemple, on puisse tous les 5 ans revoir à la hausse les contributions. Mais les contributions elles-mêmes, non. Ce sont des engagements volontaires des États. Et d'ailleurs, Monsieur Apathy, quelquefois, il y a une différence entre ce qui est ambitieux et ce qui est contraignant. C'est contraignant, si jamais c'était contraignant, les États seraient très très prudents, ne nous engageons pas trop. Tandis que si ce n'est pas contraignant, on peut être plus ambitieux.
À Kyoto, il y a 20 ans.
Arrêtons cette querelle.
Ouais. À Kyoto, il y a 20 ans.
C'est jamais contraignant.
Si, à Kyoto, ça l'était. L'objectif de réduction.
À Kyoto, ça l'était.
Ça l'était.
Oui, ça l'était.
Donc, Kerry dit, ça ne sera pas comme Kyoto. Bah oui.
Mais attendez, le Canada s'est retiré et il ne s'est rien passé.
Il
y a des tas d'États qui n'ont pas.
Je comprends votre état d'esprit,
c'est comme
Brice Lalonde.
Il ne faut pas être hypocrite.
Vous êtes un peu rageur, peut-être amer de voir ce qu'a dit John Kerry, mais quand même, il porte un coup à la crédibilité de la COP21 ce matin, John Kerry, avec ses propos.
John Kerry, c'est un des plus fougueux artisans d'un accord. C'est lui qui, depuis 20 ans, il défend l'environnement aux États-Unis. Donc ce n'est pas le cas. Le cas, c'est on sait très bien que ça ne peut pas être un nouveau traité. On sait très bien que, par exemple, aux États-Unis, la situation est tellement bloquée.
Hein.
Depuis 10 ans. Quels sont les traités que les États-Unis ont ratifiés depuis 10 ans ? Aucun. Bon, donc on le sait très bien. Et personne, même la Chine, personne ne veut un nouveau traité lourd, compliqué. En revanche, tout le monde est d'accord pour faire quelque chose. Travaillons sur la réalité.
Vous ne regrettez pas les propos de John Kerry quand même ? Vous ne les regrettez pas un peu ? Un peu ?
Moi, ça fait depuis un an et demi que chaque fois que j'entends quelqu'un me dire ça va être légalement contraignant, je lui dis mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça ne va pas être légalement contraignant.
On aurait dû vous inviter plus
ça
tôt.
Ça n'existe pas. Non, il faut sortir de l'hypocrisie ou du trouble. Ce qui doit être contraignant, c'est le fait que l'on puisse revoir tous les 5 ans les engagements. Ce qui doit être contraignant, c'est le fait que les États acceptent que l'on vérifie ce qu'ils font. En revanche, que si le prix de l'énergie change, comment voulez-vous ? C'est très, très difficile d'être contraignant sur 2050, 2030. Et la plupart des politiciens ne sont même plus là pour rendre des comptes. Donc, c'est volontaire. Essayons de faire en sorte qu'il y ait un nouvel ordre international où les choses soient contraignantes. Pour le moment, ce n'est pas le cas.
Bon. L'ironie de l'histoire, mais la petite ironie. John Kerry, c'est votre cousin, mais il ne vous rend pas service, votre cousin.
Ben merci, vous me dites ça. Moi, je suis ravi des efforts que fait John Kerry un peu partout dans le monde. Et je peux vous dire que c'est le principal allié de la France dans cette discussion sur le climat. Il vient simplement de mettre les points sur les i en disant ce n'est pas un traité, ce sont des engagements volontaires. Voilà, je pense que c'est la vérité. Alors, je ne comprends pas bien la réaction. Je pense qu'il y a
la réaction
de
Laurent Fabius, vous ne comprenez pas. Hein
oui. Si vous voulez, je crois qu'il faut faire la différence entre ce que la France va essayer de rendre contraignant, et c'est-à-dire la transparence, le fait que les États acceptent que les autres États viennent voir leurs engagements, la mise en œuvre de ces engagements, si c'est vrai ou si c'est pas vrai.
D'accord. On surveillera ça, la transparence et les résultats. On vous réinvitera, Brice Lalonde.
Et le fait que tous les 5 ans, on essaye d'améliorer les engagements.
On essaiera tous de s'améliorer. Je vois que vous avez beaucoup d'énergie, donc on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Et je signale à nos auditeurs que vous avez écrit un livre, « Le ciel nous tombe sur la tête sans une réponse sur le climat », publié aux éditions Artaud. Merci Brice Lalonde d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1.
Europe 1. Il est 12h10, Europe Midi, la suite du journal. Jean-Michel Apathy, Maxime Souitec.
Dans un instant, qui a encore les moyens et qui a encore envie de s'acheter une voiture neuve? Réponse, les seniors. On verra à 5h20, mais d'abord Jean-Michel.
Mais d'abord Michel Platini qui ne figure pas ce matin dans la liste des candidats retenus par la FIFA.
Oui, les candidats à la présidence de l'organisation. L'élection aura lieu fin février. Platini est toujours suspendu à cause de ce 1,8 million qu'il a touché de la FIFA dans des conditions troubles. Simon Rubin, Michel Platini aujourd'hui n'est pas dans la liste des candidats. Est-ce que c'est définitif? Est-ce qu'il ne pourra pas se présenter?
Alors rien de rédhibitoire. La candidature Platini n'est pas exclue. De fait, le comité électoral de la FIFA n'a pas étudié son dossier. Puisque le Français est en ce moment suspendu, sa candidature est gelée jusqu'à la fin de la suspension au début du mois de janvier. Platini doit donc attendre, d'autant que son appel de suspension n'a toujours pas été étudié. Dans le meilleur des cas, une fois la suspension passée, la candidature de Platini pourrait être validée par le comité électoral. Mais le Français n'aurait alors plus que quelques semaines pour faire campagne, jusqu'à l'élection prévue le 26 février. Au mieux, Platini sera donc contraint de faire dans l'urgence. Malgré son vaste réseau, son assise au sein du continent européen, Michel Platini se trouve donc dans une situation précaire. D'autant que d'ici là, 5 candidats vont eux pouvoir débuter leur campagne. Le prince jordanien Ali Al Hussein, le cheikh du Bahreïn Ibrahim Al Khalifa, le français Jérôme Champagne, le suisse Infantino et le sud-africain Tokyo Sexwale. Notons qu'une seule candidature a été officiellement refusée, celle du libérien Hassan Bilitti pour des raisons éthique.
Et une toute petite question, Simon, on sait dans quel état d'esprit il est aujourd'hui, Michel Platini?
Il attend que son appel de suspension interjeté aboutisse et il trouve que ça prend beaucoup de temps. Et c'est là-dessus qu'il va se battre pour essayer de pouvoir être candidat avant janvier. Ce serait pour lui l'idéal, évidemment.
Voilà, Michel Platini se plaint de la lenteur de la FIFA. Merci Simon Rubin.
Cet après-midi, c'est le retour de Jean-Marc Ayrault.
L'ancien Premier ministre qui est redevenu député depuis son départ de Matignon propose d'abaisser la CSG pour les ménages les plus modestes. Son amendement sera étudié cet après-midi, effectivement, à l'Assemblée. Je rappelle que la CSG, c'est un impôt que nous payons tous au même taux, 7,5% par exemple pour les salariés, et un impôt qui sert à financer la sécurité sociale. Anne-Laure Jumet, l'idée de Jean-Marc Ayrault, c'est donc d'avoir une CSG dégressive.
Oui, c'est un changement complet de logique, puisque vous le disiez, la CSG est payée aujourd'hui au même taux par tout le monde, que vous soyez smicard ou cadre dirigeant. C'est une injustice, selon Jean-Marc Ayrault, et son amendement vise donc à la corriger. Alors, si vous gagnez moins d'1,3 fois le SMIC, vous êtes concerné. Pour les autres, pas de changement. Donc, on parle de ceux qui gagnent moins de 1 450 € net par mois. Dans ce cas, le taux de la CSG baisse assez nettement. C'est la proposition. Pour quelqu'un qui est au SMIC, ça veut dire concrètement un gain de 100 € net par mois et ce sera visible directement sur la fiche de paye. Cette mesure doit entrer en vigueur dans un an, le 1er janvier 2017. Alors, Manuel Valls aurait bien aimé se passer de ce nouveau mécano fiscal. En plus, ça coûte cher, 1 milliard d'euros au moins, selon les auteurs de l'amendement. Mais la mesure est soutenue par 160 députés socialistes. La pression a donc joué. Le gouvernement ne fera pas obstacle à cet amendement. Alors il faudra voir quand même si une fois voté, il passe le cap du Conseil constitutionnel, puisqu'il y a 15 ans, la même mesure exactement avait été retoquée pour rupture de l'égalité devant l'impôt.
Et on va suivre ça. Merci Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1.
Europe 1, il est 12h14. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
À suivre, les jeunes désertent les concessions automobiles. Il n'y a quasiment plus que les seniors pour acheter des voitures neuves en France. Et puis midi et demi, pénurie à l'éducation nationale. À Paris, on manque de profs remplaçants. À tout de suite.
Bon appétit.
Tous les jours, midi 14h.
Midi. Il est est 12h18 sur Europe 1, la suite du journal Jean-Michel Apathy, Maxime Switek, journal que vous pouvez suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr.
Au départ, ce devait être une étude confidentielle destinée uniquement aux constructeurs automobiles. Une étude tellement confidentielle qu'elle s'est retrouvée ce matin dans le journal Les Échos. Elle concerne l'achat de voitures neuves. Et ce que l'on constate, c'est que l'âge moyen des acheteurs a nettement reculé en France. 44 ans en 1991, 55 ans aujourd'hui. Et clairement, les jeunes achètent de moins en moins de voitures neuves.
Bonjour Mathieu Le Sage.
Bonjour.
Vous êtes avocat en droit routier, mais là, pour l'intérêt de notre conversation, membre d'un think tank automobilité et avenir, vous réfléchissez au futur de la voiture. C'est pas terrible là, parce que 3% des acheteurs ont moins de 25 ans. Donc les jeunes se détournent des voitures neuves.
Effectivement, il y a un vieillissement de la population qui achète des voitures neuves en France, et ça c'est constaté depuis pas mal de temps, et cette étude le révèle encore à nouveau. Effectivement, mais c'est logique.
Uniquement à cause des raisons. Alors, les raisons financières, on les comprend, mais est-ce qu'il n'y a que ça?
Alors déjà, effectivement, la première raison, elle est financière, puisque le coût moyen de la voiture neuve augmente au fil du temps.
22 000 euros aujourd'hui, c'est beaucoup.
C'est très très cher,
et
effectivement.
Et là, on peut l'expliquer, les normes juridiques, les contraintes environnementales, tout ça renchérit le coût du produit.
Oui, tout à fait. Puis même, il y a une course à l'armement. À chaque fois, entre les constructeurs, c'est-à-dire au départ, c'était la vitesse et la puissance. Maintenant, c'est plus l'apport des nouvelles technologies. Et là, il y a un vrai décalage qui se passe. Ça coûte de plus en plus cher. Et là, ce décalage, il n'est pas rattrapé par le fait que les jeunes sont fascinés par les nouvelles technologies, mais pas encore dans la voiture. C'est plus, par exemple, un smartphone. C'est plus cool d'avoir le nouveau smartphone que la dernière voiture bardée de...
Et donc du coup, le fait que de moins en moins de jeunes achètent des voitures neuves, ça doit inquiéter considérablement l'industrie automobile.
Oui, parce qu'elle craint de se retrouver un peu comme sur un marché de niche, en fait, de vendre vraiment des gens qui sont des seniors et qui ont déjà épargné, qui ont déjà acheté leur bien immobilier, leur résidence principale, voire parfois secondaire. Et donc d'être sur un marché de niche. Mais ceci dit, il y a moins de particuliers qui achètent, mais l'autre pourcentage, c'est l'autre moitié, c'est les entreprises, c'est les loueurs professionnels, effectivement,
qui achètent de plus en plus. Donc du coup, le marché de l'occasion se gonfle de véhicules qui sont en relativement bon état, et ça peut se rééquilibrer comme ça, mais à la baisse sans doute.
À la baisse, effectivement. Alors évidemment, pour qu'il y ait des voitures d'occasion, il faut qu'il y ait des voitures neuves. Donc il faut bien que quelqu'un achète les voitures neuves. Donc ça, faudra pas l'oublier. Et puis aussi ce détournement entre guillemets de la population jeune des voitures neuves, parce qu'ils sont moins fascinés par cet outil, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter, parce qu'on peut faire le parallèle avec la machine à laver ou les frigidaires. À l'époque, ça fascinait tout le monde quand c'est arrivé. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça ne fascine plus personne.
Non, ça, c'est vrai. Oui.
Bon. Mais tout le monde en a.
Ouais.
Donc, la voiture, c'est pareil. C'est un outil indispensable au quotidien. Donc, on achètera toujours des voitures, mais beaucoup moins neuves.
Est-ce que Google, quand il va mettre sa voiture sur le marché, par exemple, peut rencontrer un succès? Parce que vous disiez, la technologie, ça peut fasciner les jeunes. Est-ce que des marques aussi fortes aujourd'hui peuvent révolutionner l'automobile, et du coup, tous les vieux constructeurs peuvent être très ringards très vite?
Alors, c'est plus compliqué que ça, mais effectivement, c'est la grande tendance.
Je
c'est qu'en fait,
simple,
l'outil technologique, maintenant, c'est la voiture. C'est même plus le smartphone, c'est la voiture qui prend, on les voit maintenant dans les salons comme Las Vegas et tout.
C'est ça.
Mais c'est pas forcément Google qui va construire sa voiture, même s'il y a Google Car qui existe, mais qui va mettre, comme dans les téléphones, des logiciels dans les voitures. Et les grands fabricants, les constructeurs, sont spécialisés dans l'objet industriel, solide, fiable, efficace, qui va continuer à être vendu. Et là, ça peut réorienter les jeunes vers la voiture, parce que ça va devenir un outil vraiment technologique.
L'étude était confidentielle, vous la connaissiez avant de la lire dans Les Échos ou pas?
Absolument pas.
Non,
non,
voilà.
Pas du tout.
Mais
c'est une tendance de fond. Elle révèle, elle confirme ce qu'on sait déjà depuis longtemps.
Ce qu'on savait déjà. Merci Mathieu Le Sage de nous avoir apporté votre expertise technique sur la vente des voitures neuves.
Et puisque l'on parle d'automobile, les suites de l'affaire Volkswagen en France, un cabinet d'avocats parisiens lance une action groupée. Il propose aux propriétaires de voitures truquées, entre guillemets, de se joindre à cette procédure et de porter plainte contre le constructeur. Écoutez Maître Charles Constantin Vallée.
L'objectif est de solliciter une indemnisation pour les plaignants, pour les consommateurs. Et bien sûr, cela dépendra de deux choses. Soit l'action donne lieu à une négociation avec le groupe Volkswagen, et là, ça dépendra bien sûr de la négociation. Soit l'action en justice aboutit, et dans ces cas-là, c'est devant la justice que seront formulées les demandes d'indemnisation. Aujourd'hui, ce qu'il est possible d'envisager, c'est une indemnisation qui correspondra à un pourcentage du prix du véhicule. Parfois, il est même évoqué jusqu'à l'annulation de la vente du véhicule. Mais aujourd'hui, ce qui est raisonnable d'estimer, c'est que chaque consommateur puisse solliciter une indemnisation correspondant à une partie du prix du véhicule.
Voilà, Maître Constantin Vallée au micro Europe 1 de Pauline Jacquot.
Europe 1. Il est 12h23, Europe Midi, la suite du journal. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Un combat dans ce journal. Le nouveau combat du ministre de la Ville, Patrick Kanner, contre un serpent de mer. Il s'attaque aux ascenseurs en panne. Il veut réunir autour d'une même table les ascensoristes et les bailleurs sociaux pour tenter de comprendre pourquoi, dans certains immeubles, les pannes se multiplient. On va prendre un exemple avec vous, Salomé Legrand. La tour Kerguelen à Nanterre. 16 étages, 2 ascenseurs, mais 2 ascenseurs qui fonctionnent rarement.
Et oui, je me suis glissée dans l'immeuble en même temps qu'Atakim, un petit colis pour sa femme dans les mains. Face aux boîtes aux lettres, il appuie machinalement sur le bouton, mais le choix est vite fait.
D'un côté, ascenseur en travaux, donc c'est pour une durée de 3 mois. Donc il est condamné. Et là, le côté impair qui est le seul disponible, l'indicateur nous montre que c'est un service, donc on l'attend pas.
Là, c'est donc à pied qu'on attaque les étages. Au 8e, Radija transpire et souffle. Elle a lâché son sac de course pour faire une pause.
Nous emmenons toujours une petite bouteille d'eau. Obligé. On n'arrive plus tous les jours. Et on parle tous les jours. Des fois le matin, on descend et l'après-midi, on monte à pied. On voit des malades. On voit des handicapés. C'est trop. Ça fait mal au cœur. Ah non, il y a toujours pire que moi.
Petit à petit, les habitants s'isolent. C'est le cas de la mère d'Hichem, qui ne peut sortir que quand il est là pour lui servir d'appui dans les escaliers. Et même de Farida, elle vit dans la tour depuis 17 ans et quitte de moins en moins son appartement du 11e étage.
Si on a l'habitude de sortir 3-4 fois, on va sortir une fois. On en a ras-le-bol. On est fatigué de ça. J'espère qu'ils vont démolir un jour ces tours-là.
Parce qu'en fait, plus aucun des habitants que j'ai croisés ne croit vraiment en une réparation de ces ascenseurs. La plupart parlent surtout de déménager.
Un reportage de Salomé Legrand pour Europe 1.
Europe 1, il est 12h25. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Dans un instant, pénurie d'instituteurs remplaçants à Paris. 12h40, il est vraiment plus fort que tout le monde. James Bond réalise le meilleur démarrage pour un film en France depuis que le cinéma existe.
Depuis
en fait.
Jésus-Christ, quoi.
Oui, et c'est ça. Et puis 12h50, Nicolas Canteloup, à tout de suite.
Maxime Switek, Jean-Michel Apathy sur Europe 1.
Comme.
Jour, midi, 14h.
Europe Midi.
Il est midi et demi sur Europe 1, la suite du journal. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Vous envoyez vos enfants à l'école et c'est bien, mais êtes-vous sûr qu'ils auront en face d'eux un instituteur ou un professeur?
Et la question se pose parce qu'il y a visiblement pénurie à l'éducation nationale, pénurie de profs et d'instituteurs remplaçants à Paris, notamment un cas d'école, si je puis dire, pardon pour ce mauvais jeu de mots. Virginie Salmen, vous êtes allée dans le 13e arrondissement de Paris, classe de CP, sans instituteur, depuis combien de temps?
Depuis le retour des vacances de la Toussaint, mais surtout, le rectorat ne donne quasiment pas d'espoir que ça s'arrange. Donc ça fait 2 semaines que ces enfants ont, d'après les parents d'élèves, un instit remplaçant qui, chaque jour, dit aux élèves « je ne sais pas si je reviendrai demain ». Et là, on est dans les premières semaines du CP, donc des moments cruciaux pour l'apprentissage de la lecture, hein, on le sait, on nous le répète. Alors les parents inquiets ont décidé de faire eux-mêmes la classe à leurs enfants le soir après le travail, comme Gabriel.
Le soir, on arrive à 19h30 et on refait l'école à la maison. On a racheté une méthode de lecture, on fait faire des mathématiques. C'est un peu le rôle des parents, mais c'est surtout le rôle de l'école.
Alors, il y a les mamans comme Gabriel qui se sentent capables d'apprendre à lire à leurs enfants. Mais Najat, elle s'appelle Najat, est une maman d'une petite fille de cette classe, se sent un peu moins à l'aise et elle a peur que sa fille rate l'entrée dans la lecture.
Ma fille, elle était motivée, à la rentrée, elle était toute contente de rentrer à l'école. Et là, les problèmes des maîtres, on ne demande pas la lune, c'est juste un prof pour les enfants.
Alors du coup, les parents qui sont très mobilisés envisagent de faire des ateliers du week-end pour apprendre à lire à tous les enfants de la classe pour qu'il n'y ait pas d'élèves sur le bord du chemin, parce qu'ils ont appelé le rectorat devant moi ce matin et on leur répond il n'y a plus de remplaçants disponibles à Paris. Et donc ils ont appelé une instite à la retraite pour savoir si elle serait partante pour prendre ce poste, si c'est possible.
Un reportage en direct de Virginie Salmen pour Europe 1.
Bonjour Hervé Jean Liger.
Bonjour, merci de recevoir la FCPE.
Mais voilà, vous en êtes le vice-président national et nous vous recevons avec plaisir, comme nous recevons tout le monde ici. Avec plaisir. L'histoire que raconte Virginie Salmen est une histoire que l'on retrouve d'abord, pour parler de ça, beaucoup dans l'Académie de Paris. Il y a beaucoup de problèmes. Alors
effectivement, il y a des problèmes dans l'Académie de Paris, mais pas seulement. Il y en a beaucoup dans le 93 et dans d'autres départements. Il y a effectivement un vrai souci de remplacement, que ce soit dans le second degré, c'est-à-dire collège et lycée, mais maintenant, et c'est nouveau, des gros soucis dans le premier degré, c'est-à-dire en maternelle et en primaire.
Mais plus que les autres années ?
Il y en a plus que les autres années et ce qui est effectivement inquiétant, comme c'est dit dans le reportage, c'est que dans l'Académie de Paris, clairement la réponse est faite, qu'il n'y a plus de remplaçants, le volant de remplaçants disponible a été utilisé totalement. La liste complémentaire, c'est-à-dire les enseignants qui sont titulaires du Master 2, mais qui n'ont pas réussi toutes leurs épreuves, a été utilisée également. Donc on se retrouve dans une situation où l'Académie de Paris dit aux élèves parisiens et aux parents parisiens, il n'y a plus de remplacement, sauf à recruter des contractuels qui ne seront pas forcément formés.
C'est quoi, c'est un problème d'organisation ou bien il faut faire un lien avec les économies budgétaires et que le gouvernement essaie, pas toujours sans légitimité d'ailleurs, essaie de faire ici et là?
Alors, il faut quand même pas oublier, rappeler le contexte, qu'il y a eu 80 000 suppressions de postes sous le précédent gouvernement, que 60 000 postes devraient être rétablis sous ce quinquennat, qu'il y en a à l'heure actuelle 35 000, ce qui est insuffisant, et donc on n'a pas reconstitué.
C'est un problème d'effectif, c'est un problème budgétaire qui explique les difficultés que l'on connaît cette année.
Le problème budgétaire, vous savez que l'éducation nationale est un des ministères qui a été sanctuarisé, le budget est en progression, mais il y a des grandes difficultés effectivement pour subvenir à tous les postes et les postes de remplaçants en particulier.
Il y a aussi des problèmes de recrutement, c'est-à-dire pas assez de candidats, donc ensuite les listes de remplaçants sont moins étoffées que les autres.
Il y a moins de problèmes de recrutement qu'il y en avait, on voit qu'il y a plus de candidats au poste.
Il y a eu des déficits les années précédentes.
Il y a eu des gros déficits et on ne comble pas des déficits sur plusieurs années aussi facilement que ceux-là. Quand on se rend compte que les parents vont faire cours à leurs enfants, c'est extrêmement inquiétant. On est en pleine loi de refondation de l'école. On nous a promis des dispositifs, plus de maîtres de classe, scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Et là, on se rend compte que non seulement ils ne sont pas forcément en place, mais que même les remplaçants ne sont pas là.
L'éducation nationale est une machine tellement lourde qu'à part constater aujourd'hui les manquements, on ne peut pas faire grand-chose. Pendant toute l'année, sans doute, il va y avoir ce type de problème avec le caractère aigu que vous évoquez.
En tout cas, à Paris, la réponse a été faite par le directeur de l'Académie de dire que, avant même les pics épidémiques, on n'était plus en mesure de remplacer, sauf à recruter des contractuels.
Merci Hervé Jean Le Niger, vice-président national de la FCPE, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Si vous avez des enfants qui sont aujourd'hui dans les écoles, mais il n'y a pas de professeurs ou d'instituteurs dans l'école, où sont vos enfants? 39-21, nous en parlons à partir de 13h10.
Et le 39-21 pour joindre Europe 1, c'est 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Vous pouvez également réagir et témoigner sur Twitter avec le hashtag E1Midi.
Europe 1.
Il est 12h34, la suite du journal Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Plusieurs milliers de patients sont concernés chaque année. Plusieurs milliers qui tombent dans le coma après un accident par exemple. Que dire à la famille sur les chances de réveil? Que dire sur les séquelles éventuelles? Des chercheurs de l'INSERM du CHU de Toulouse viennent de mettre au point un nouvel outil qui permet de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau lors d'un coma et donc de pouvoir faire un diagnostic beaucoup plus précis, Jean-Michel.
Bonjour docteur Benjamin Rowe.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, réanimateur à la Pitié-Salpêtrière. Vous connaissez bien l'étude que vient de faire l'INSERM. On pourra progresser dans quel domaine? Mieux connaître éventuellement la date du réveil de quelqu'un qui est tombé dans le coma ou simplement mieux connaître, enfin ce serait déjà une information très importante, l'état dans lequel il sera quand il se réveillera de ce coma?
Alors vous posez deux questions fondamentales, c'est la date à laquelle le patient va se réveiller, ça, bien sûr on n'y arrivera probablement jamais. Déjà la première question c'est de savoir s'il a des chances raisonnables de sortir de son coma et de retrouver un état de conscience. Et après vous soulevez une deuxième question qui est encore plus importante probablement, c'est dans quel état le patient va reprendre son état de conscience, est-ce qu'il va être capable d'interagir avec ses proches, d'avoir une vie de relation, mais aussi est-ce qu'il va être capable d'avoir un certain degré d'autonomie quand on discute avec des patients bien portants ou en tout cas pas trop handicapés et des proches. Les gens sont toujours extrêmement sensibles sur ce qu'on appelle la qualité de vie qu'on va offrir aux malades. Et les gens bien portants comme vous et moi, si on nous demande est-ce que vous seriez prêt à vivre, même si vous êtes conscient, dans un état d'extrême handicap, c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre et les médecins ont un peu cette responsabilité à prendre à la phase aiguë de ces agressions cérébrales.
Est-ce que ça peut placer progresser dans la connaissance est toujours important. Est-ce que ça peut placer les équipes médicales dans des situations très difficiles? Si on fait le diagnostic d'un état, hélas, très dégradé quand le patient va se réveiller, est-ce que les médecins ne risquent pas d'être confrontés à des demandes particulières des familles? C'est-à-dire, quel intérêt à ce moment-là de le voir se réveiller?
des demandes des familles et puis aussi d'un questionnement médical. Hein. C'est-à-dire que la médecine, et à fortiori la réanimation, elle n'a pas pour vocation à permettre la survie à tout prix, entre guillemets, c'est-à-dire à offrir une vie dans une qualité, enfin avec une qualité qu'on pourrait considérer comme non satisfaisante. Et c'est la responsabilité des médecins de savoir à quel moment il faut s'arrêter ou au contraire dans quelle situation ça vaut le coup de se battre, parce qu'on a un espoir d'offrir un avenir de bonne qualité aux patients. Et c'est vrai, et en neurologie, pour les patients qui ont une agression cérébrale en réanimation, c'est un problème majeur. Et donc cette étude apporte un nouvel élément et une nouvelle technique qui va permettre d'affiner notre pronostic, qui reste encore imparfait. Hein. Il y a souvent des zones d'ombre très grandes, mais voilà, quand à l'aide de plusieurs marqueurs, quand on arrive à avoir des arguments qui vont tous dans le même sens, soit dans le bon, soit dans le mauvais, eh bien, on est plus serein que lorsqu'on a à prendre des décisions graves.
On parle d'un nouvel outil. Vous pouvez le décrire rapidement?
Oui, alors ce qu'ont fait les collègues de l'Inserm de Toulouse, ils ont étudié en fait un réseau qui met en jeu deux zones du cerveau, une en avant, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, et une en arrière, dans ce qu'on appelle le cortex singulaire postérieur et le précuneus. C'est des termes un peu techniques, mais ce qui est important, c'est que c'est des régions qui sont distantes dans le cerveau, et on sait que lorsqu'elles communiquent bien, ces régions, eh bien souvent c'est le témoin d'une prise de conscience de soi-même.
Est-ce que je ne comprends pas bien, c'est un outil ou c'est simplement des zones? Quand est-ce que tous les hôpitaux seront équipés de ce type d'outils?
Alors, l'outil en lui-même, c'est une IRM, donc c'est une machine qui est maintenant assez bien répandue en France. Après, c'est une technique d'analyse qui est très particulière, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas uniquement à l'anatomie. L'IRM, initialement, c'était fait pour décrire de manière très subtile et très fine l'anatomie du cerveau. Là, c'est une technique qui utilise la même machine, mais qui s'intéresse à la mise en communication de réseaux cérébraux. Donc, en fait, ça regarde dans quelle mesure des régions distantes du cerveau communiquent entre elles. Et on sait que quand ce réseau est mis en jeu, eh bien, c'est que le patient est en train d'avoir une perception consciente de lui-même.
Donc, c'est quand même, donc, pour toutes les personnes qui sont confrontées à ces situations très graves et pour les équipes médicales, un progrès évident. Et je vous remercie, docteur Rowe, de nous avoir éclairé sur ce sujet compliqué. Restez avec nous, on voulait vous faire entendre une autre information, docteur.
Oui, c'est cette décision surprenante de la Fédération américaine de football. Elle interdit désormais aux joueurs de moins de 10 ans de faire des têtes quand ils jouent au foot. Trop de risques, dit la Fédération, pour la santé des enfants. Christophe Lamar, ça paraît être une décision radicale.
Oui, la décision de la Fédération fera peut-être sourire ici en Europe. Frapper un ballon avec sa tête peut-il faire perdre la tête à votre enfant à plus ou moins long terme? Aux États-Unis, la question est prise très au sérieux. Plusieurs études universitaires ont récemment démontré que les chocs répétitifs et violents portés à la tête pouvaient s'avérer dangereux, voire mortels, dans les cas les plus extrêmes. On le savait pour les boxeurs, mais le grand public avait presque fini par l'admettre au point de l'ignorer. Mais c'est un autre sport très populaire aux États-Unis qui va remettre la question à l'ordre du jour. Le football américain. Les chercheurs de l'université de Boston ont étudié le cas d'anciens joueurs, tous décédés. 131 sur 179 souffraient d'encéphalopathie traumatique chronique, l'ETC. Et ce, malgré les imposantes protections qu'impose le règlement, comme le port du casque en match. Le cinéma s'est emparé de l'affaire, puisque Concussion de Ridley Scott en fait le thème principal. Le film est diffusé en avant-première mondiale mardi, retrace l'histoire vraie d'un médecin légiste qui, le premier, diagnostique l'ETC après le décès d'un joueur vedette contre l'avis de la Ligue et de ses dirigeants. Les Américains ont longtemps ignoré les méfaits de leur sport préféré. Trop d'argent et d'intérêt sont en jeu. L'interdiction ou la limitation du jeu de tête dans le football que nous connaissons est peut-être le signe que la prise de conscience gagne du terrain.
Christophe Lamar.
Merci Christophe Lamar. Docteur Rowe, on y viendra nous aussi. Est-ce qu'on s'interrogera sur les dégâts que peut provoquer le jeu de tête au football?
Alors, c'est un domaine que je connais pas très bien, notamment le football américain. En tout cas, vu l'armure qu'il porte, j'imagine que c'est plus violent que le football qu'on connaît en Europe.
Oui, bien sûr.
J'ai pas connaissance de problèmes particuliers chez les joueurs de foot.
Tel qu'on connaît le football ici, oui.
Voilà, mm-hmm. C'est ça. Et après, effectivement, il y a les parce qu'il y a traumatisme crânien.
Mais pour les enfants, notamment, peut-être qu'il faudra peut-être dans quelques années se poser la question.
C'est possible, en tout cas, c'est vrai, en tout cas, en neurologie standard en France, en tout cas, par exemple, on déconseille pas, sauf problème hémorragique particulier, on déconseille pas le football classique à nos enfants, quoi. Hein.
C'est
probablement moins violent que le football américain.
Ah, ça c'est sûr.
En tout cas.
Ça c'est sûr. J'ai joué ni à l'un ni à l'autre, mais je suis d'accord avec vous. Merci, docteur Benjamin Rowe, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1.
Europe 1, il est 12h41. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Allez, dans un instant, le raz-de-marée James Bond, meilleur démarrage de tous les temps pour un film en France, à tout de suite.
Maxime Switek, Jean-Michel Apathy sur Europe 1. Tous les jours, midi 14h,
Europe Midi. Il est 12h45 sur Europe 1, la suite du journal. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
On sentait bien qu'il y avait une certaine impatience à retrouver James, mais les premiers chiffres sont sans doute même au-delà des espérances des producteurs. Le dernier épisode de James Bond, Spectre, réalise le meilleur démarrage de tous les temps en France. Bruno Kras, on vous retrouve en direct du Festival du film de Sarlat. Bruno, les chiffres sont vertigineux.
Oui, ils sont vertigineux. J'ai les tout derniers chiffres. Ils frôlent les 900 000 entrées en France avec la sortie du mardi soir et hier, évidemment, dans 900 salles, ce qui est énorme. Et c'est un record battu, un record historique, puisque le record précédent était détenu par Spider-Man 3, qui avait 804 345 entrées pour le démarrage, le premier jour, c'est précis. Et Taxi 2, ça c'était en 2007, Taxi 2 en 2000 avait 801 000. Donc là, on frôle les 900 000, donc c'est vrai que c'est un record absolu. Mardi soir, il y avait déjà 265 000 entrées en deux séances, à partir des 18h. Hier, il y en a donc eu 600 1000 ou plus, c'est un truc extraordinaire. Les séances affichées complètes, il y avait d'immenses files d'attente un peu partout. Alors, il faut expliquer que le film est sorti un jour férié et en général, quand le mercredi de sortie coïncide avec un jour férié, ça fait un carton.
Ça fait un carton. Comment est-ce que vous expliquez, au-delà de cet effet jour férié, un démarrage aussi tonitruant ?
Bah, vous savez, c'est extraordinaire parce que pour ce 24e épisode, on a beaucoup parlé de James Bond. On a revisité toute l'histoire de James Bond. Il y a eu des papiers un petit peu partout, chez nous, chez nos confrères. Et je pense que ça a réveillé un petit peu le public et c'est parti à partir de Skyfall. Skyfall, il y a 3 ans, 2012, avait eu un succès extraordinaire, on l'avait dit, 1 milliard 100 millions de dollars. Tout le monde avait parlé de ce film parce que James Bond s'était ouvert aussi à un public plus féminin, plus large. Et je pense que ça a réveillé un petit peu le public autour de cette saga et les gens ont voulu aller voir le film. En plus, il y a une offre de cinéma qui n'est pas extraordinaire en ce moment. Il y a ce week-end qui va arriver et qui va faire encore des entrées. Vous savez que les producteurs espèrent à dimanche soir 3 millions d'entrées en 5 jours. Ce qui serait aussi sur les traces d'un autre record, parce que le précédent record de la première semaine, c'était les ch'tis, 3 800 000 entrées. Alors, je dis pas qu'ils vont arriver là, mais ils vont y arriver. Alors, côté box-office international, le film sort dans 5000 salles en Chine aujourd'hui, et ce week-end devrait apporter 100 millions de dollars de plus dans la cagnotte du James Bond.
Eh ben voilà. Merci beaucoup, Bruno Kras.
Bon, eh bien, pourtant, on peut dire qu'il est un peu poussif quand même, ce James Bond. C'est pas le meilleur. Hein. En tout cas, vous avez vu le film, vous avez envie d'aller le voir, vous êtes gestionnaire d'un cinéma et vous bénéficiez de ce succès. Une solution, 39-21, nous parlons de James Bond à partir de 13h10.
Lui aussi espère décrocher les étoiles, il n'est pas espion et futur spationaute. Thomas Pesquet est français, il a 38 ans, un CV à faire rougir d'envie toutes les personnes présentes dans ce studio.
Bon,
ingénieur,
bon.
Pilote chez Air France, allez-y.
Ah oui, c'est
allez-y.
Mal, oui, hein.
Et dans un empile, donc il sera le 10e français à s'envoler vers l'espace. Thomas Pesquet doit passer 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale et forcément, Jean-Michel, un voyage comme celui-là, bah, ça se prépare.
Bonjour Thomas Pesquet.
Bonjour.
Alors comment ça se prépare justement ?
Eh ben, c'est une préparation de longue haleine en fait, ça a commencé il y a longtemps. C'est comme courir un marathon en accélérant à peu près tous les kilomètres. Là je suis à 1 an de la mission.
Oui.
Et donc maintenant c'est le sprint final qui va durer 1 an.
Préparation physique, psychologique, c'est quoi la préparation ?
Effectivement, il faut être en forme physique, aller dans l'espace c'est difficile pour le corps, donc on fait beaucoup de sport, on essaie de rester en bonne santé. Il faut apprendre le Soyuz, qui est notre véhicule d'accès à la station, il faut apprendre la station spatiale, qui est sans doute l'objet technique le plus complexe qui ait jamais été construit de la main de l'homme. On prépare le programme scientifique qu'on va réaliser, s'entraîner en scaphandre, apprendre le russe. Donc oui, j'ai des journées bien remplies.
Très très compliqué. Apprendre le Soyouz, par exemple, il y a une reproduction quelque part du Soyouz. Vous allez dedans de temps en temps, non?
Alors on partage notre temps entre les sites d'entraînement des différents partenaires du programme de la station spatiale. Donc c'est beaucoup la NASA à Houston, c'est beaucoup avec nos collègues russes. Ça c'est à la Cité des Étoiles, c'est dans la banlieue de Moscou. C'est en Europe, à Cologne. Ça va être au Japon ou au Canada. Et donc notamment à la Cité des Étoiles à Moscou, on a des simulateurs. En fait, tout bêtement, ça me rappelle ma carrière de pilote où on va s'entraîner à répéter tous les gestes et faire face à toutes les situations.
Qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette expérience? 6 mois, c'est long, hein, vivre 6 mois dans la station spatiale internationale. Il y a quelque chose de personnel ou c'est l'expérience scientifique? Qu'est-ce qui vous motive le plus dans cette démarche?
Mais il y a vraiment deux choses. Moi, je vis évidemment mon petit rêve personnel de manière un petit peu égoïste. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu voler. J'étais pilote avant. J'ai fait beaucoup d'activités aéronautiques. C'est un peu le vol ultime. 6 mois comme ça, flotter au-dessus de la Terre, avoir une vue incroyable et puis être en lévitation permanente. Je pense que ça, c'est une expérience inoubliable.
On aurait tous envie d'être en lévitation permanente. Ça, je vous comprends.
Et en plus, mais il y a un côté aussi très collectif. On fait ça parce qu'on est persuadé que ça sert. On fait ça pour les gens qui restent au sol. On essaie de partager cette expérience au travers moyen des médias sociaux. Et puis, on a à cœur d'avoir des résultats scientifiques qui après sont applicables pour améliorer tout simplement la connaissance et la vie de nos concitoyens. C'est à ça que ça sert.
Ouais. Quel est le nom de la mission? Toutes les missions.
Alors, le nom de la mission, on va le révéler cet après-midi.
Allez-y.
De presse. Ben non, malheureusement,
on le répète
très bien. Pendant quelques mois, je vais pas craquer au dernier moment.
Pendant quelques mois, parce que vous l'avez arrêté depuis de nombreux mois, le nom de la mission.
On l'a arrêté depuis quelques semaines. On a fait une compétition pour donner aux gens l'occasion de proposer. On a eu 1300 propositions. Il a fallu choisir un nom. Ensuite, on a choisi un design pour le logo, pour le patch de cette mission qui va nous accompagner. J'ai pas d'indice.
C'est un nom masculin, féminin.
Non, je veux pas déflorer le secret. Je vous donne rendez-vous à 14h30 et puis.
Bon, on y sera. On y sera, Thomas Pesquet. Et Mars, c'est pour quand pour vous?
Mars, c'est pour, on va dire, à peu près dans 20 ans. J'espère dans moins, parce que, évidemment.
D'accord.
Oui, 20 ans. Aujourd'hui, on est plus proche, techniquement, de faire une mission sur Mars qu'on était de faire une mission vers la Lune au moment où Kennedy a fait son discours si célèbre. Donc, si on a une volonté politique forte et que les gens arrivent à se mettre d'accord, techniquement, ce sera faisable dans un délai assez court, oui.
Bon, merci Thomas Pesquet, on était très heureux de vous accueillir sur Europe Midi et donc nous écouterons à partir de 14h30 pour connaître le nom de votre mission. C'est lequel déjà?
Écoutez, on en reparle. Bon vol.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Europe 1, il est 12h52.
Nathalie Rigouet, si je comprends bien, nous continuons dans la douceur.
Exactement. Des températures encore très douces cet après-midi, bien qu'en légère baisse par rapport à hier, mais on est encore dans des valeurs 5 degrés au-dessus des normales. 12 degrés attendus cet après-midi à Dijon, où les brouillards ont tardé à se lever. 13 degrés à Lyon pour les mêmes raisons. 15 à Cherbourg, Lille, Rennes et Paris. 16 degrés à Bordeaux, 18 à Perpignan et Nice. 21 degrés à Ajaccio. Donc cette hausse des températures est conditionnée à la dissipation ou pas de ces brouillards, parfois encore assez tenaces et denses. Sinon, le ciel s'annonce très gris dans le nord et le nord-ouest. Ailleurs, un petit voile de nuages plus ou moins épais.
Donc, un passage nuageux demain.
Pour demain, exactement, mais il sera faiblement pluvieux. De faibles pluies qui vont s'étirer le matin entre les Pays de la Loire, l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne. On en reparle tout à l'heure, Jean-Michel.
Mais avec plaisir, on se retrouve après le journal de 13h. Merci Nathalie Rigouet. Nicolas Canteloup, lui aussi à la tête dans les étoiles. Le morceau choisi de sa revue de presse.
Bonjour Monsieur Hollande.
Oui, bonjour à tous.
Alors dites-nous, quel est l'intérêt d'une pré-réunion? Le réchauffement, c'est votre combat numéro 1, hein, Monsieur Hollande.
Oui, c'est mon combat. Mmh. Je dis même plus, c'est mon défi personnel. Pourquoi? Faire pleuvoir, je sais que je peux le faire. Je l'ai réussi, chère Caroline, chère Natacha, à réussir à plusieurs reprises, justement. Mais faire refroidir. Est-ce que cela est dans mes cordes? C'est pour moi un vrai défi que vrai défi. J'ose me lancer.
Un mot sur la loi Macron 2 et sur la signification de Noé, nouvelle opportunité économique, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, Noé, nouvelle opportunité économique. C'est comme l'arche de Noé, c'est bien trouvé, hein. Il est bon mon Macron.
Très bon.
L'arche de Noé. Alors, l'arche de Noé qui a sauvé, vous le savez, côté d'histoire, je suis prêt à apprendre, qui a sauvé les couples d'espèces qui allaient disparaître. Et d'ailleurs,
Emmanuel Macron me l'a conseillé, il me l'a dit, si François vous trouvez un couple socialiste, il faut absolument que vous les fassiez monter à bord et essayer de les faire se reproduire. Et, parce que c'est vrai qu'il y en a, et l'analyse est juste, il y en a de moins en moins de socialistes. Alors on a bien Martine Aubry qui veut monter à bord, mais qui va vouloir se reproduire?
Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Daniel Craig, James Bond a souvent changé de comédien et donc de physique. On parle même d'un éventuel futur James Bond noir. Nadine Morano, bonjour.
Mais Madame Julie...
Qu'est-ce qu'il y a?
Mais c'est n'importe quoi! Mais tout le monde le sait, autour de cette table, James Bond a toujours été de race blanche. Hein, c'est James Bond, c'est pas James Black ou James Bamboula.
Oh, ah, arrêtez maintenant. Ah,
mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mais alors qu'on me crucifie.
Oh, écoute, pourquoi il serait pas noir un jour d'ailleurs? C'est un agent secret britannique et figurez-vous qu'il y a des Britanniques noirs, Madame Morano.
Non, mais non, les détectives, écoutez, allons, les détectives ont toujours été de race blanche, hein. Regarde, Maigret, blanc, Sherlock Holmes, blanc,
oui,
mais oui,
bon, d'accord.
Magnum, blanc, hein, il y a... Oui, oui, le Magnum chocolat noir, mais ça, ça n'a rien.
Bon, donc un James Bond noir, mais pour voilà. Vous, hein, c'est non pour vous, hein, James
non,
Bond.
Non, c'est non, voilà. C'est... Bon, bien sûr, sauf pour les diamants sont éternels, là, les limites, on peut avoir un Bokassa, c'est pas mal. Hein, oui, c'est une vanne des années 70, tout le monde ne comprend pas mon humour. Eh bien, si mon humour n'est pas bon, mais qu'on me crucifie.
Nicolas Canteloup, la revue de presque.
Et la revue de presque de Nicolas Canteloup, c'est tous les jours à 8h40 dans la matinale de Thomas Soto sur Europe 1, bien sûr. Il est 12h56.
À suivre le journal de Christophe Carré. Et puis à partir de 13h10, nous attendons vos témoignages sur l'actualité. Est-ce que vous achetez une voiture neuve? Avez-vous vu James Bond au cinéma? Et puis l'absentéisme des professeurs, il paraît que ça prend des proportions importantes cette année. Et si votre enfant est en classe mais n'a pas de professeur, nous en parlons à partir de 13h10. À tout de suite.
Maxime Switek, Jean-Michel Apathy sur Europe 1.
La suite d'Europe Midi, c'est avec vous Jean-Michel Apathy.
13h, c'est le journal de Christophe Carré. Bonjour Christophe.
Et bonjour. Pas le droit de tirer pour les policiers s'ils n'ont pas d'abord été mis en joue. Le principe de la légitime défense pourrait évoluer. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, n'est pas contre. C'est une demande forte des forces de l'ordre. L'escalade entre Paris et Washington à moins de 3 semaines de la COP21. François Hollande affirme que l'accord final sera contraignant ou qu'il n'y en aura pas. La Société Générale et la BNP s'apprêtent à leur tour à faire payer leurs clients pour la gestion de leurs comptes courants. Une association de consommateurs réclame en retour que les banques les rémunèrent. Le robot Philae fête ses 1 an sur la comète Chury, Champagne au centre spatial à Toulouse. Il a déjà rempli 80% de sa mission et a fait progresser la science. Les chefs-d'œuvre de Rodin, comme on ne les avait jamais admirés, le musée parisien rouvre ses portes après 3 ans de travaux.
Europe Midi sur Europe 1.
La règle de la légitime défense pour les forces de l'ordre pourrait bientôt changer. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve souhaite des évolutions d'ici la mi-2016.
Oui, le débat a été relancé il y a quelques jours par Nicolas Sarkozy qui plaide pour une présomption de légitime défense pour les gendarmes et les policiers. Il n'est pas nouveau. Faire évoluer la règle actuelle, c'est une demande très forte des forces de l'ordre. Dans le journal Libération ce matin, Bernard Cazeneuve répond qu'il y aura des modifications. Alain Co, concrètement, qu'est-ce qui va changer?
Alors aujourd'hui, la règle est simple, elle est même très stricte. Pour avoir le droit de tirer, les policiers doivent être en situation de légitime défense. En clair, il faut que leur vie ou la vie de quelqu'un d'autre soit directement menacée. On ne peut pas ouvrir le feu sur un malfaiteur sous prétexte qu'il tient une arme à la main. Il faut que cette arme soit braquée sur quelqu'un et que son propriétaire s'apprête à tirer. Même si en théorie les règles sont un peu plus souples pour les gendarmes, dans les faits, ils sont soumis aux mêmes obligations. On l'a bien vu d'ailleurs après les attentats de janvier, à Dammartin, un gendarme qui se trouvait sur le côté de l'imprimerie avait les frères Kouachi au bout de son arme. Il aurait pu tirer, mais il n'a pas osé, car à ce moment-là, il n'était pas en état de légitime défense. Les frères Kouachi ne le menaçaient pas, ils ne regardaient même pas dans sa direction. C'est cela que Bernard Cazeneuve veut changer. Il veut, dans des conditions, des circonstances très particulière face à des individus qui ont déjà tiré et dont tout porte à croire qu'ils vont continuer à le faire. Il veut autoriser les forces de l'ordre à ouvrir le feu. C'est valable pour les terroristes, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, pour des forcenés. Le résultat des discussions et des débats, donc Bernard Cazeneuve espère l'obtenir d'ici le juin 2016.
Alain Accaud, chef du service police-justice d'Europe 1. François Hollande répond à son tour très sèchement au secrétaire d'État américain sur la COP21 qui s'ouvre dans moins de 3 semaines maintenant à Paris. Ce matin, John Kerry a expliqué qu'il n'y aurait pas de mesures concrètes et juridiquement contraignantes à l'issue de cette grande conférence. En clair, pas vraiment de sanctions pour les pays qui ne limiteraient pas leurs émissions de gaz à effet de serre. En déplacement à Malte, le président vient de le recadrer.
Si l'accord n'est pas juridiquement contraignant, il n'y a pas d'accord. Parce que ça voudra dire que il n'est pas possible de vérifier ou de contrôler les engagements qui seront pris. Donc je comprends que les États-Unis ont des problèmes avec leur Congrès, c'est tout à fait légitime, et je sais combien c'est difficile, mais nous devons donner à l'accord de Paris, si accord il y a, un caractère contraignant au sens où les engagements qui auront été pris devront être tenus et respectés.
François Hollande au micro Europe 1 de William Galibert. Le chef de l'État qui est à Malte au sommet sur la crise des migrants. L'Europe annonce la mise en place d'un fonds d'€1,8 milliard pour l'Afrique. La réunion doit aboutir à un plan d'action commun pour endiguer l'afflux massif de réfugiés.
Une association de consommateurs relance le débat sur la rémunération des comptes bancaires.
Aujourd'hui, dans quasiment chaque banque, si vous avez un compte courant, vous payez pour que l'établissement assure la gestion. Les dernières à ne pas encore le faire s'apprêtent à franchir le pas. En revanche, la banque ne rémunère pas du tout les dépôts que vous y faites. Pas juste, pas normal, dit la CLCV. Olivier Samin, cette association de consommateurs veut que cela se fasse.
Oui, et la CLCV invoque le fait qu'on est obligé aujourd'hui d'avoir un compte bancaire, obligé pour y loger le salaire qui arrive en début de mois. Alors c'est vrai, très rapidement, le solde créditeur se réduit avec le prélèvement du loyer, des impôts et des factures en tout genre. Mais l'argent disponible pendant plusieurs jours n'est pas de l'argent dormant pour tout le monde. Les banques l'utilisent au quotidien pour financer leurs opérations. Et cette manne, gratuite pour elles, est évaluée aujourd'hui à 370 milliards d'euros. La CLCV veut donc que les particuliers bénéficient en retour de l'argent qu'ils déposent d'une rémunération de leur compte à vue. C'est déjà le cas en France dans certaines banques, mais ça reste très marginal. Alors qu'ailleurs, en Europe, la rémunération des comptes est plus répandue. Alors pourquoi cette singularité française? Parce que, nous répondent les banques, en France, il y a quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs et qui s'appelle le livret A ou le livret de développement durable. À quoi bon, dans ces conditions, proposer parallèlement une rémunération des comptes à vue qui ne rapportera que quelques euros par trimestre, qui plus est imposable? Bref, disent les banques, ce serait une fausse bonne idée, sauf que quand même, elles sont bien contentes de profiter de cette manne totalement gratuite.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Petite revanche pour Jean-Marc Ayrault qui n'avait pas réussi à lancer sa grande réforme fiscale quand il était à Matignon. Il présente aujourd'hui à l'Assemblée son amendement sur la baisse de la CSG pour les salariés les plus modestes. Il est soutenu par plus de 150 députés. Manuel Valls s'opposait dans un premier temps au texte, a finalement renoncé. S'il est voté, l'amendement devra encore passer le cap du Conseil constitutionnel. Il y a 15 ans, un même dispositif avait été retoqué. Les sages avaient jugé qu'il était contraire à l'égalité devant l'impôt. Jusqu'ici plutôt discret, Pierre de Saint-Ignon, tête de liste PS dans le Nord-Pas-de-Calais Picardie au régional, tape du poing sur la table contre Manuel Valls. Il lui dit stop aux petites phrases. La région historiquement à gauche pourrait basculer dans le giron du Front National. Le Premier ministre a soumis l'idée d'une fusion des listes PS Les Républicains au soir du premier tour si le FN arrivait largement en tête.
On a sorti la bougie au centre spatial de Toulouse. Au-dessus de nos têtes, fila et fête ses 1 an sur la comète Tchoury.
Oui, le robot est la grande fierté de l'Agence spatiale européenne. Après 10 ans de voyage comme passager de la sonde Rosetta, il s'est posé le 12 novembre 2014 sur Tchoury, un exploit qui avait tenu en haleine le monde entier. En un an, Philae a déjà réalisé 80% de sa mission. Benjamin Péter, on vous retrouve en direct de Toulouse. On est tous très admiratifs parce que ce travail qu'effectue le robot, c'est un bond en avant pour la science.
Eh bien oui, il faut déjà réaliser la performance, hein. Poser un engin gros comme une machine à laver sur une comète à 510 millions de kilomètres. L'objectif, c'était d'explorer les origines de l'univers, comme l'explique Philippe Godon, chef du projet Rosetta au CNES.
C'est de l'archéologie spatiale remontée à 4,6 milliards d'années en arrière. En particulier, l'instrument COSAC a découvert 16 molécules organiques complexes qui prouvent que la théorie que les comètes peuvent avoir amené ces molécules dans les océans terrestres et que ces molécules soient l'origine de la vie sur Terre, ça l'assure.
Depuis un an, c'est un peu le symbole d'une réussite française. Même le chien du président de la République a été baptisé Philae, ici à la Cité de l'Espace, où on présente une réplique du robot. Philippe Dronneau a pu constater l'engouement des visiteurs.
D'abord, il y a la notion de robot, de petit robot, qui fait que toute la famille peut s'y intéresser. Hein. Et puis, c'est l'Europe, c'est la France. Et les gens se sont sentis impliqués et fiers. Parce que finalement, les grandes premières comme ça, un peu comme celle d'Apollo hein, sur la Lune, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de l'espace.
Alors pour le moment, les communications avec Philae sont interrompues depuis le mois de juillet en raison du passage à proximité du Soleil. Mais au CNES, on a bon espoir d'avoir rapidement des nouvelles et pourquoi pas faire enfin fonctionner la foreuse, ce qui permettrait d'analyser un échantillon de Tchoury.
Benjamin Péterrand, direct pour Europe 1 de Toulouse. Une nouvelle épine dans le pied de Michel Platini qui pour l'instant ne fait pas partie de la liste des 5 candidats admis à se présenter à la présidence de la FIFA fin février. Les instances mondiales du foot ont dévoilé les candidatures retenues ce matin. Celle de l'ancien capitaine de l'équipe de France ne sera examinée qu'à l'issue de sa suspension début janvier. Ses avocats s'étonnent de la surprenante lenteur, disent-ils, de la FIFA à se pencher sur sa procédure d'appel. Europe 1 vous en parlait ce matin. À Montpellier, un surveillant de prison est jugé en correctionnel pour avoir violemment frappé un détenu en 2012. À l'époque, ses collègues l'avaient couvert, mais il a fini par être confondu par des écoutes téléphoniques. Tout à l'heure à l'audience, il a reconnu pour la toute première fois avoir porté des coups. Le procureur a requis 4 mois de prison avec sursis. Le jugement est attendu cet après-midi.
Il est resté fermé pendant 3 ans pour cause de travaux. Le musée Rodin à Paris rouvre ses portes aujourd'hui.
Oui, nouvelle jeunesse pour cet hôtel particulier à 2 pas des Invalides. Il abrite tous les chefs-d'œuvre de l'artiste. On les redécouvre différemment. Diane Chenouda, l'équipe du musée a complètement transformé le système d'éclairage.
Oui, on retrouve les icônes de Rodin, le baiser, le penseur, l'homme qui marche, mis en lumière comme jamais, grâce à un éclairage spot par spot qui change en fonction du temps qu'il fait dehors. Si un orage arrive, la lumière va remonter. Si le soleil est là, la lumière artificielle va baisser. L'idée, comme l'explique l'architecte Dominique Brard, c'est de garder la magie de la lumière naturelle sur les œuvres.
Le baiser, où en fait on voit ici la lumière naturelle qui arrive directement sur la sculpture et c'est vraiment la mise en scène et la magie de la sculpture. Mais aussi si on regarde derrière, la partie qui n'est pas vers le soleil n'est pas ombrée puisque vous avez des spots qui permettent de continuer cette révélation de la sculpture, y compris dans les parties non éclairées.
Les chefs-d'œuvre de Rodin sont aussi magnifiés par la couleur des boiseries et des murs entièrement repeints en gris taupe et gris vert, ce qui permet de mieux voir les œuvres. On voit mieux aussi comment Rodin travaillait, avec une première esquisse du penseur bouleversante et un grand nombre de plâtres et de terre cuite ici exposés.
Diane Chenouda, le musée est exceptionnellement gratuit aujourd'hui, Jean-Michel, pour sa réouverture. Vous pouvez y courir, les portes ferment à 17h45.
On a le temps, on y va ensemble, Christophe ?
Avec plaisir.
C'était le journal de Christophe Carré. Merci Christophe.
Europe 1, il est 13h10.
Nathalie Rioué, demain, si j'ai bien compris l'étape précédente, nous aurons un passage nuageux.
C'est parfaitement bien compris. Alors, de toute façon, ce sont de faibles pluies que ces nuages vont donner. Elles vont s'étirer, ces faibles pluies, demain matin des Pays de la Loire à l'Île-de-France et à la Champagne-Ardenne. Et elles atteindront l'après-midi l'Aquitaine, le Centre, l'Alsace et la Lorraine. Du coup, après le passage de ces faibles pluies, les éclaircies reviendront dans le Nord-Ouest, près de la Manche. Mais attention, dans l'après-midi, les averses se manifesteront encore entre la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais pour demain après-midi, accompagné de bonnes rafales de vent, 70 km à l'heure dans les terres, 90 près des côtes, donc ce sera très instable demain après-midi dans le Nord et le Nord-Ouest. Un ciel bleu en revanche, présent dès le matin des Pyrénées jusqu'à Rhône-Alpes, et puis on profitera d'une très belle évolution près de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône, après une matinée, c'est vrai, dans la grisaille. Et puis attention, encore une fois, au brouillard demain matin, très présent dans la vallée de la Garonne, dans le Lyonnais, également le Val-de-Saône et en Alsace, alors que les nuages bas seront encore bien présents en Corse.
Et à partir de samedi, on ressort les parasols ?
Oui, alors faut pas exagérer non plus, ni les t-shirts, mais enfin quand même, c'est vrai que ça sera plutôt un week-end agréable en perspective. C'est vrai que samedi, on aura le passage d'un petit front très très atténué, mais pas bien méchant sur une petite moitié nord. Toujours des brumes et des brouillards, attention. Mais d'une manière générale, c'est vrai que le soleil dominera ce week-end dans une atmosphère toujours très très douce. Mais je le précise, rien à voir avec le week-end qu'on a connu quand même le week-end dernier. Donc ça faut pas non plus rêver.
Faut pas rêver, voilà. Merci Nathalie Rioué de ne pas nous faire rêver. Eh bien, le moment est venu de dialoguer sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez composé le 39-21 et nous nous retrouvons tout de suite.
Pour apporter vos témoignages sur l'actualité,
appelez Jean-Michel Apathy au 39-21.
50 centimes la minute, plus coût de l'appel.
Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Et voici les sujets du jour sur lesquels nous attendons vos témoignages au 39-21. Les jeunes achètent de moins en moins de voitures neuves. Trop chères, inutiles, 3921 pour témoigner. Le carton du nouveau James Bond, meilleur démarrage de tous les temps pour un film en France. Est-ce que vous avez vu James Bond? Appelez-nous 3921. Mais d'abord Jean-Michel, ce sont notamment les associations de parents d'élèves qui nous ont alertés. Il y a pénurie de profs et d'instituteurs remplaçants à l'éducation nationale.
Oui, Maxime, on est toujours sensible à ce genre de sujet parce que voilà, on envoie nos enfants à l'école mais s'il n'y a personne pour les accueillir, c'est tout de même un peu dommage. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Vous êtes à Orléans dans le Loiret.
Exactement.
Vous avez enseigné, vous étiez à la retraite et il vous arrivait un drôle de truc à la fin du mois d'août. Vous nous racontez ?
Alors j'étais à la retraite depuis un an puisque je me suis arrêtée fin juin 2014.
D'accord.
Et le 28 août, j'étais en vacances et mon ancien établissement m'a appelé pour savoir si j'acceptais un remplacement.
Vous étiez enseignante en collège ?
En collège, oui, en collège.
Et vous enseignez là, SVT, c'est ça ?
SVT, c'est ça, donc les sciences. Et ils ne trouvaient pas de remplaçant. C'est un remplacement qui va durer jusqu'à quasiment fin janvier.
D'accord.
Sur deux établissements différents, dont un à 45 km d'Orléans.
D'accord. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, surpris de 6 mois, votre remplacement, c'est ça, hein,
entre ces deux établissements. C'est exactement la moitié de l'année. 17 semaines, d'accord. Ça fait la moitié de l'année.
D'accord.
Sur deux établissements, donc un bon plein temps, même un peu plus. Du jour au lendemain, ils ne trouvaient personne. J'ai évidemment dit oui, parce que, comme je l'ai dit à personne, oui. C'est que j'aimais mon métier. Mmh. Mais c'est un peu difficile, après avoir pris un an de retraite.
Oui, j'imagine. De s'y remettre comme ça. Et est-ce qu'on vous a expliqué, peut-être qu'on ne l'a pas fait, mais pourquoi il y avait vraiment une... Enfin, des autres années, j'imagine que le rectorat ou l'académie anticipait les remplacements. Et là, cette année, ça s'est passé plus mal que d'habitude pour eux.
Non, on ne trouve plus de remplaçants.
D'accord.
Dans l'établissement où je suis, ils ont cherché un remplaçant d'anglais. L'année dernière, ils ont eu des problèmes pour trouver un remplaçant de maths. Là, ils cherchent un remplaçant en allemand. Non, on n'en trouve plus.
C'est-à-dire que chercher des remplaçants, ça fait partie du quotidien, si je puis dire, de l'éducation nationale. Mais là, ça s'aggrave. On a vraiment, l'éducation nationale a du mal vraiment à trouver, de plus en plus de mal à trouver des remplaçants.
Il n'y a plus de professeurs. Mmh. Et bon, moi j'ai été appelée, mais je connais d'autres collègues à la retraite aussi qui ont été rappelés aussi. Alors il y a un avantage pour l'éducation nationale, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que nous sommes beaucoup moins bien payés.
Mmh. C'est-à-dire, expliquez-nous.
On est payé non pas au prix où nous étions payés quand nous avons quitté l'éducation nationale, mais on est embauché au tarif d'un débutant sans diplôme.
D'accord, débutant sans diplôme. Mais vous êtes payé comme le sont tous les remplaçants, vous voulez dire, ou c'est parce que vous êtes retraité de l'éducation nationale que vous avez une décote ?
D'accord. C'est parce qu'on est retraité, on a une décote.
D'accord. Et malgré ça, vous avez accepté d'emblée ?
Oui, parce qu'ils nous laissent quand même notre retraite.
Ah oui, ça, vous cumulez.
On cumule. Puis bon, je ne sais pas dire non.
Parce que la perspective de reprendre un cours devant une classe, comme ça, de manière temporaire, ça vous a...
Non, ça ne posait aucun problème. Franchement, me retrouver devant une classe...
Ça vous a plutôt amusé.
Ce qui est fatigant, c'est la route, il faut dire ce qui est. Et puis, c'est ça. C'est tout, puis tout. Bon, honnêtement, les paquets de copies, ça, ce n'est pas la partie... Et quand on a perdu le rythme, c'est un peu difficile.
Oui, bien sûr, il faut s'y remettre quand même. Vous avez beaucoup de personnes que vous connaissez dans votre situation, des retraités de l'éducation nationale qui sont sollicités comme ça. Donc c'est un réservoir un peu nouveau que tente d'exploiter l'éducation nationale pour faire face à la pénurie des professeurs.
Et là, c'est un congé maternité, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose au dernier moment.
Non, c'est ça.
Donc ils ne sont vraiment pas trouvés.
D'accord. Si on vous propose là, après janvier, de continuer dans d'autres établissements, vous direz oui aussi ?
S'il y a des kilomètres, je dirais non.
D'accord.
Parce que justement, s'ajoutent les frais d'essence, les frais de la fatigue, les heures en plus sur la route, etc.
Et là, vous direz non.
Donc sur Orléans, je dirais oui. En dehors d'Orléans, je dirais non.
D'accord. Bon, écoutez, Dominique, là, si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est repos, pas de classe ?
Non, là, je vais en cours. C'est pour ça que...
Vous y allez. Donc,
j'étais un peu pressée, ça sonne à 1h30.
Bon, eh bien, on va vous souhaiter une excellente après-midi de travail, Dominique.
Merci beaucoup.
Et merci d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1.
Pas de problème. Au revoir.
Au revoir. Bonjour, Dany.
Bonjour, messieurs.
Vous êtes à Metz, en Moselle.
Tout à fait.
Et vous avez été remplaçant, c'est ça, ou vous continuez à l'être ?
Oui. Alors, j'ai été titulaire remplaçant, mais en tant que professeur des écoles, donc dans les écoles primaires et maternelles.
Donc, vous étiez, votre activité consistait à remplacer les uns et les autres. C'était votre métier. D'accord.
Titulaire, c'était mon métier. C'était un choix, donc j'avais fait des vœux pour ce poste-là.
D'accord.
Et à l'époque où j'ai fait ce vœu-là, donc j'ai remplacé pendant 8 années, j'ai fait ce choix pour plusieurs raisons. La première raison, c'était le fait de multiplier une expérience, de gagner une expérience assez rapidement. Mais aussi, l'intérêt était pécunier, parce qu'en tant que remplaçant, on avait des primes de déplacement, on avait un salaire un peu plus important. Et quand on commence en tant que professeur des écoles, ben, on ne crache pas dessus.
Oui, ce sont des éléments effectivement assez incitatifs. Et vous n'êtes plus remplaçant ? Vous ne faites plus ce métier ?
Alors non, je ne suis plus remplaçant. J'ai même fait très, très différemment, parce qu'en fait, je suis plus du tout en France. J'ai quitté la France pour aller en détachement dans un pays étranger.
D'accord.
Alors, pour gagner plus, encore
pour
une fois.
Pour enseigner dans un pays étranger ?
Oui, tout à
d'accord,
fait.
D'accord, d'accord.
Donc, la question était que j'ai aussi quitté les postes en France, parce que lorsque j'ai commencé titulaire remplaçant, en fait, on avait ces primes de déplacement, et oui. Du jour au lendemain, on nous a supprimé ces primes.
Ah,
donc,
d'accord.
En fait, on a réduit l'intérêt du poste de titulaire remplaçant, alors que c'est un poste qui n'est pas du tout intéressant pour la plupart des enseignants, parce que c'est difficile de se retrouver d'un jour à l'autre devant une autre classe, découvrir d'autres élèves, d'autres parents, d'autres collègues, parfois aussi. Et donc, on nous a supprimé honnêtement la moitié de nos primes.
D'accord.
Donc, ça devenait déjà moins intéressant pécuniairement.
Mm-hmm.
Et ensuite, ce qui s'est passé aussi, et je pense que c'est ce qui n'est pas assez dit, c'est pour ça que j'ai voulu témoigner,
oui.
C'est que le rectorat a décidé, donc ça venait du ministère, de réduire le nombre de postes de titulaires remplaçants dans les circonscriptions.
D'accord.
Donc, moi, j'étais dans une petite circonscription de la Moselle-Est, et en fait, on a supprimé, grosso modo, un quart des postes de titulaires remplaçants.
Pour faire appel à des vacataires, à des gens dont ça n'est pas... qui ne sont pas liés juridiquement avec l'éducation nationale, ce sont des raisons économiques qui ont fait ça ?
Je pense qu'il y avait des raisons économiques, effectivement. Et aussi, peut-être un peu pour rappeler aux gens qu'il n'est pas facile de se faire remplacer, et donc pour éviter peut-être les arrêts maladie,
l'absentéisme.
Trop souvent utilisés par certains collègues. Mmh. Mais honnêtement, je pense que c'était surtout une raison d'économie. Hein.
D'accord.
La démarche a été claire. Au départ, on a supprimé, on a réduit les primes. Ensuite, on a réduit le nombre de remplaçants. Et justement, quand on était au bout et qu'il n'y avait plus de remplaçants, eh ben, soit on se prêtait les remplaçants d'une circonscription à l'autre, soit eh bien, on faisait appel à des vacataires qui, comme le disait votre auditrice précédente, eh ben, coûtaient largement moins cher.
Moins cher, hein. Bien sûr.
Ah, oui, oui, oui.
Puisque vous êtes sur les tablettes de l'éducation nationale, dans la dernière période, ils ont cherché à vous recontacter, à vous solliciter de nouveau ou pas vous...
Non, du tout, parce que moi j'ai fait une demande de détachement très officielle, un peu comme un militaire. Hein, donc je suis encore dans le listing du ministère, mais j'étais embauché par une école privée à l'étranger.
D'accord.
Donc j'ai un statut un peu particulier.
D'accord.
Mais j'ai eu des échos de collègues dans le secondaire, enfin d'amis dans le secondaire qui ont été embauchés pour faire des remplacements en collège en mathématiques. Et honnêtement, l'ami qui a fait ce remplacement-là, alors elle l'a accepté parce que c'était intéressant pour elle, c'était une nouvelle expérience, mais elle n'avait pas du tout un profil d'enseignant. Elle n'avait jamais été face à une classe et elle s'est retrouvée face à des classes de collège.
Ah oui.
Donc,
La qualité du remplacement se dégrade beaucoup dans l'éducation nationale.
Tout à fait. Alors quand ils font appel à des retraités, comme c'était le cas précédemment, oui,
c'est bien, ça, oui.
C'est bien.
Oui, bien sûr.
Ce sont des gens de qualité, des gens qui aiment leur métier souvent parce que sinon ils n'acceptent pas.
Oui, bien sûr.
Et c'est ce que dit Dominique, hein, c'est une passionnée, donc je comprends tout à fait sa volonté de revenir. Hein. Mais quand ils mettent des gens qui sont recrutés un peu de manière... je sais pas comment dire, mais de manière un peu aléatoire, on va dire, sans formation. Enfin, moi, en tant que parent, je m'inquiéterais, honnêtement.
C'est ça. On constate que c'est une dégradation du service
tout
public de l'éducation. Bien sûr.
Oui, complètement.
Et on va le regretter ensemble, Dani. Cette dégradation du service.
Ah oui, moi je le regrette et c'est bien pour ça que je suis parti ailleurs, hein, parce qu'au bout d'un moment c'était, en tant qu'enseignant c'était plus tenable. Hein.
Vous enseignez quoi ?
Ce n'était plus tenable.
Vous enseignez quoi ?
Enseignant. J'enseignais en primaire, j'enseignais dans tous les niveaux, hein,
vous étiez en primaire,
maternelle, en CM.
D'accord.
Mais voilà.
Très bien. Mais merci Dani d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1.
Merci de m'avoir écouté et puis continuez votre émission.
C'est très gentil et je vous souhaite une très bonne après-midi.
Merci également. Au revoir.
Au revoir. Merci à tous ceux qui nous ont appelés sur ce sujet. Nous faisons une petite pause et puis nous parlons des voitures. Il paraît que les acheteurs de voitures neuves sont eux aussi de plus en plus rares. En revanche, vous avez été très nombreux à voir James Bond. À tout de suite.
Pour apporter vos témoignages sur l'actualité,
appelez Europe 1 au 39 21,
50 centimes la minute plus coût de l'appel.
Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Et dans un instant, au 39 21, nous parlons ensemble de ce carton du nouveau James Bond, meilleur démarrage de tous les temps pour un film en France. Vous avez vu ce James Bond, venez nous en parler. Vous confronterez votre avis avec celui de Jean-Michel Apathy qui n'est pas tendre. Mais d'abord, les jeunes achètent de moins en moins de voitures neuves. Pourquoi ? On vous a posé la question au 39 21.
Bonjour Antoine.
Oui, bonjour.
Vous êtes en Vendée, à Chalon ?
Oui, C'est ça, exactement.
Vous n'achetez pas de voiture neuve?
Non, moi j'ai jamais acheté de voiture neuve, bah déjà pour plusieurs raisons, parce que bah c'est vrai que le prix souvent c'est quand même inabordable, bah surtout quand on débute dans la vie, donc
vous avez 31 ans, hein.
Voilà, c'est ça. Bon, maintenant oui, je commence à avancer, donc je veux dire, au niveau financier, ça pourrait aller mieux, mais je veux dire, je suis même pas intéressé par l'achat d'une voiture neuve, parce que même la moindre petite voiture économique, enfin vite économique maintenant. Quand on voit sur les prendre des moteurs diesel, par exemple, c'est tellement c'est rendu à un tel point au niveau électronique, au niveau filtre à particules, ce genre de pièces qui coûtent extrêmement cher à remplacer. Mais c'est vrai que quand on prend le budget d'entretien au char en compte, c'est vrai que c'est inabordable, quoi.
Et vous faites quoi? Vous achetez des occasions récentes alors?
Ça m'est arrivé une fois d'acheter un véhicule assez récent, que j'avais acheté un peu plus de 10 000 euros. Mais par contre, après, une fois que j'avais plus l'usage de ce genre de véhicule, je l'ai revendu pour prendre un véhicule plus petit. Mais en fait, c'est ça, je m'adapte toujours à l'usage
Vous achetez des voitures pas chères, Antoine, c'est ça en fait?
C'est ça, exactement. Actuellement, je roule avec une. Enfin, je sais pas si on peut citer la marque, mais.
Allez-y, on va bien voir si on va bien en
Ouais, voilà, mais si vous voulez, moi actuellement je roule en 406 AVDI de 2000. Et cette voiture, je l'ai achetée avec 155 000 km au compteur à l'époque et je l'avais acheté 3500 euros. Quoi. Ouais, donc, vous voyez, et puis.
Et ça vous fait usage, ça va quoi?
Elle roule très bien parce que j'ai 50 km qui me séparent de mon lieu de travail, de mon lieu d'habitation. Ça roule elle me fait quelques petites. Petite panne de rien du tout. Là, récemment, la batterie qui a lâché, mais c'est rien du tout, quoi. Et bon, moi, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que j'étais mécanicien avant. J'ai la chance de pouvoir faire mon entretien moi-même. Et bon, ça me coûte pas énormément. D'accord. Ça me coûte pas si cher que ça, quoi. Et là, en fait, pour l'instant, je la garde, mais là, j'envisage l'achat d'un utilitaire d'ici quelques temps, à moyen terme, mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas me tourner vers du neuf, quoi. C'est d'une part, c'est inabordable, et puis bon, quand on voit la décote la première année, du neuf, c'est vraiment... C'est pas raisonnable, quoi. En fait, à la rigueur...
C'est ce que montre l'étude, c'est ça. Beaucoup de particuliers hésitent à acheter des voitures neuves, et le marché de l'occasion est très fourni. Peut répondre à beaucoup de demandes et à beaucoup de situations, et donc vous êtes exactement dans ce créneau-là, Antoine, et merci d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une très bonne journée. Chantal est avec nous.
Bonjour. Chantal.
Vous n'avez jamais acheté de voiture neuve non plus, hein?
Je n'ai jamais acheté de voiture neuve. Je suis un petit peu peut-être hors sujet puisque moi je ne fais pas partie des jeunes, j'ai 58 ans.
Ah, mais on est très jeune à 58 ans.
Mais oui, on peut le rester.
Non, on ne le reste pas, on l'est.
On l'est, oui, si vous voulez.
Oui, je veux.
Et donc, oui, j'ai toujours acheté des voitures d'occasion. Et c'est vrai que financièrement, une voiture neuve, c'est vraiment, je trouve, très cher. Ma dernière voiture, en fait, je l'ai achetée à un concessionnaire. Oui. Donc, elle avait 3000 km.
Ah oui, une occasion récente.
Une voiture récente qui avait quand même un an.
D'accord. Ah oui, elle avait peu roulé alors, d'accord.
Elle avait peu roulé, voilà, c'est ça. Donc du coup, le prix est tombé quasiment de 10 000 euros, quoi, avec un an de date de mise en circulation. Ce qui fait que je l'avais payé 13 300 euros en 2006.
D'accord. Et donc, ça vous a fait un usage, c'était suffisant, quoi, c'était bien. Voilà, une occasion, récente.
Elle était comme neuve. Hein. Mmh, et donc, je touche du bois, hein, elle roule toujours très bien. Donc, elle va avoir 10 ans en mai, là, en mai prochain.
Et si vous deviez changer de voiture, je ne sais pas, les voitures électriques, tout ça, ça pourrait vous tenter ou vous y êtes assez indifférente?
Si, éventuellement, parce que c'est vrai que le côté écologique me préoccupe quand même.
D'accord.
Mais oui, pourquoi pas. Allez, par contre, ce que je regarde souvent, moi, c'est l'aspect d'une voiture. Il faut que j'ai un coup de cœur pour le modèle quand même.
Oui, bien sûr. Oui, on ne monte pas dans n'importe quelle voiture, mais... On n'a pas non plus envie de les payer quelquefois le prix qu'ils demandent parce que les voitures, c'est ce que montre aussi l'étude, le prix moyen de la voiture a beaucoup augmenté. Oui.
Voilà, et en plus je n'ai pas envie de prendre de crédit non plus donc pour acheter une voiture, donc je préfère qu'elle soit moins chère mais la payer comptant. Quoi.
D'accord, la payer comptant, voilà, en étant comptant. C'est toujours c'est toujours une drôle de formule, payer comptant, parce que quand on paye, on est rarement content.
Ah oui, on est rarement très, très, très enthousiaste.
Merci en tout cas, Chantal, de nous avoir éclairé sur vos choix en matière d'automobile. Et nous étions ravis de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Passez une bonne après-midi.
Bonne émission, merci.
Merci, merci Chantal.
13h34 sur Europe 1. La suite de vos témoignages, c'est au 39-21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel.
Puis-je vous poser, Maxime, une question ?
Allez-y.
Est-ce que vous avez vu James ?
Non, j'ai toujours pas vu James Bond.
Alors vous, vous n'avez pas vu James Bond parce que vous travaillez un peu trop, mais vous avez vu Daniel Craig.
Ah oui, moi j'ai vu le vrai James Bond, j'ai vu Daniel Craig.
Et Léa Seydoux.
Et Léa Seydoux, et Christophe Valls, et voilà, toute une partie de l'équipe. J'ai eu la chance effectivement d'enregistrer une émission avec eux. Très sympa, très cadré, peut-être un peu trop cadré. Voilà, c'est
un peu à l'américaine.
Un peu à l'américaine, voilà, on n'a pas le droit de poser n'importe quelle question, on n'a pas le droit de leur dire n'importe quoi, on n'a pas le droit de trop aller leur parler, par exemple, juste avant l'enregistrement, voilà. Précisé avant même le début de l'émission.
Bon, et vous irez voir James Bond
Oui, je vais essayer d'y aller ce week-end.
Bon, d'accord, ce week-end. Alors, James Bond, bonjour Jean-Marc Quinton.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'exploitation au cinéma Gaumont-Le Havre.
Oui, je suis le directeur du Gaumont du Havre.
Voilà, et nous vous avons sollicité parce qu'on voulait savoir comment ça se passait pour quelqu'un qui gère un cinéma. C'est vraiment un afflux extraordinaire pour un cinéma comme le vôtre. Vous avez constaté l'afflux de gens et donc une différence par rapport aux autres films ?
Oh, ben bien sûr. On est sur un des très très gros succès de l'année. C'est vrai qu'au niveau du démarrage, j'espère que le distributeur n'enverra pas des tueurs à mitrousse pour révéler cette petite cuisine, mais c'est vrai que le film est sorti mardi à 18h. Donc le démarrage inclut le mercredi et le mardi soir. D'accord. Mais avec ou sans mardi soir, on est effectivement sur un film qui, en moins de 48 heures, fait, je crois, près d'un million d'entrées en France, c'est-à-dire des chiffres que certains films rêveraient d'avoir tout au long de leur exploitation.
Et pour vous, ça vous rappelle quoi ? Je crois que c'est Intouchable qui avait démarré comme ça dans les récentes années.
Intouchable avait été énorme. Oui, on a la chance quand même en France d'avoir 3-4 très gros succès par an. Là, on a eu Les Mignons cette année, on a eu Fast and Furious. C'est vrai que les entrées spectres étaient particulièrement impressionnantes avec, voilà, on a fait des séances complets sur complets depuis le mardi soir et tout au long du mercredi.
Maxime. Et ce que nous disait Bruno Kras, notre spécialiste cinéma, c'est que justement dans le cas où vous avez des salles qui affichent complets, ça profite à d'autres films. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous ?
Oh ben, oui, c'est toujours les cas à la marge. C'est vrai que quand les gens vont au cinéma et qu'un film est complet, ils peuvent se reporter sur les autres films. Maintenant, d'une manière générale, tout au long de l'exploitation, quand un film marche, c'est une bonne nouvelle pour le cinéma en général, parce que les gens retrouvent le chemin des salles et voient d'autres bandes annonces pendant le film. Donc,
quand même dire aux téléspectateurs que s'ils veulent aller voir James Bond, la salle est complète et ils achètent un billet pour Ange et Gabriel, c'est pas la même chose.
Parce que vous savez, nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on fait de plus en plus de préventes dans les cinémas. Il y a des films comme Star Wars qui font énormément de préventes un ou deux mois à l'avance. Là, James Bond, ça fait 2-3 semaines qu'on avait les billets à la vente. Et en prévente, ça marchait pas énormément. Ça décollait, mais sans plus. Les gens sont vraiment venus, ont commencé à acheter la veille. Et
d'accord.
Sur masse. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sur un public de geeks, d'aficionados de James Bond qui réserve 3 semaines à l'avance.
D'accord.
On est sur vraiment un large public familial qui va au cinéma et qui va voir James Bond parce que tout le monde aime James Bond. Donc
ça pourrait être...
On est sur un public qui n'est pas forcément ado, masculin. On est vraiment sur un public très généraliste, assez adulte. Effectivement, ça peut tout à fait être le public d'Angé Gabriel, le public dans Mes Fils, ce qu'il te plaît, voilà.
Ouais, ils veulent aller au cinéma, donc si Bond est complet, ils prennent autre chose. Merci,
exact.
Jean-Marc Quinton, directeur du cinéma Gaumont, Le Havre, d'avoir accepté d'évoquer avec nous James Bond sur l'antenne d'Europe 1. Et bon après-midi. Jérémy, rapidement, vous avez vu le film, Jérémy, bonjour, vous êtes à Moulins dans l'Allier.
Bonjour, oui, tout à fait, j'ai vu le film, mais
vous avez aimé
que c'est un très bon James Bond.
D'accord. Bon.
Et après, Skyfall reste supérieur sans aucun problème.
Ouais.
Mais Daniel Craig, c'est toujours du grand James Bond. Ça lui colle à la peau sans problème. Et je le préconise à plein de gens qui sont fans de James Bond sans problème.
Jérémy, il va falloir argumenter parce que Jean-Michel Apathy, qui a vu le film en avant-première, lui n'est pas du tout, mais alors pas du tout convaincu.
J'ai trouvé poussif, moi, un peu. Je trouvais qu'à un moment, je sais pas, au bout d'une heure et demie, bon, après, ils savent plus trop quoi raconter. Et ils nous resservent les vieux James Bond avec le méchant qui est méchant. Il y a des technologies. Enfin, on s'ennuie un peu, quoi, je trouve, à un moment.
Justement, en fait, il traîne en longueur, certes, mais je pense que justement, ça permet de,
de comprendre la vie de James Bond, de qu'il ait le rapport avec tout, justement, tout le reste.
Vous avez raison, c'est peut-être
c'est lui qui est le X de tout, et je trouve ça génial, justement, parce que ça nous apprend vraiment quelque chose sur sa vie, où à la base, James Bond était flou, on connaissait rien de lui.
Vous avez raison, Jérémy. En fait, moi, quand il n'y a plus d'action, je m'ennuie.
Et voilà.
Quand on est rentré dans la psychologie, j'ai dit, ils me font chier.
Jean-Michel voilà. veut de la cascade.
Mais,
voilà.
Jérémy, la beauté des choses, c'est qu'on a le droit. Vous avez aimé James Bond, moi je me suis un peu ennuyé, et celui qui va arbitrer ce débat, ce sera Maxime. Oui. Si un jour, ce feignant va voir James Bond, c'est pas gagné. Merci beaucoup Jérémy d'avoir accepté de nous livrer votre vision de James Bond. Et maintenant, Maxime.
Oui, l'heure des découvertes arrive dans Europe Midi, voyage, BD, les tendances, la télé également, c'est dans 2 minutes sur Europe 1, tout de suite.
Europe 1, 12h, 14h,
Europe Midi. Et à 13h44 sur Europe 1, c'est l'heure d'accueillir toute la bande des découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.
Alors Maxime, qu'allons-nous découvrir aujourd'hui ?
Oh, plein de choses ! Voici la bande de ce jeudi.
Des promesses.
Oui, bah oui, toujours. Vanessa Aza, Eva Rock, Vincent Grégoire et Thierry Geffrotin, bonjour à vous quatre.
Bonjour
Maxime.
Bonjour Jean-Michel.
Quels sont vos coups de cœur du jour, Vanessa Aza ?
Un week-end Londres dans la peau de James Bond.
Ah, on retourne à Londres avec James Bond, décidément. Eva Rock.
Un gros coup de cœur pour un documentaire qui s'appelle Par-delà les hauteurs, et c'est sur l'équipe 21 à 20h40.
Vous regardez aussi l'équipe 21.
Et oui, exactement.
Elle regarde tout. Notre chasseur de tendance, Vincent Grégoire.
On va parler de nouvelles façons de recevoir après les brunchs, les slunchs, les drunchs, les nouveaux goûters, les nouveaux dîners.
Nous avons donc Nadine de Rothschild avec nous ce midi. Merci Vincent. Thierry Geffrotin.
Marcel Pagnol en bande dessinée.
Ah, original.
Ah oui, réussi.
On voit ça dans un instant. Voilà pour le programme.
Europe Midi. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Que voulez-vous ? Tout est pensé dans cette émission. Juste avant la pub, on a parlé de James Bond avec les auditeurs. Et là, on va parler de pas vraiment de James Bond, de Londres. Mais donc un peu de Bond avec vous, Vanessa Aza.
C'est surtout que je vous ai programmé un petit week-end sur mesure pour vous, Jean-Michel et Maxime, pour vous glisser dans la peau de James Bond. Bon, vous faites ce que vous voulez après, c'est toujours le même truc. Histoire de vous glamouriser un peu parce que ça manquait. Donc, dès que je vous parle de James Bond, les amis, vous pensez à quoi ?
Avec ma mèche, je suis pas glamour.
Aux James Bond Girls.
Bon, ça laissez tomber. On n'a même pas besoin d'aller à Londres pour ça. On est d'accord, Eva ? On est
là. Je suis d'accord avec vous, Maxime. Et moi, je pense d'abord à ça. Ouais. Je m'en fous un peu de James en tant que tel.
Pense-voiture. Vous êtes branché voiture ?
En pense-voiture, ouais, d'accord.
Bon, qui n'a pas fantasmé ? Franchement, sur tous ces bolides, tous ces engins, ces gadgets
mais
complètement dingues.
Mais donc on parle pas
dingues.
Des James Bond Girls ?
Non. Vous allez les chercher là-bas, vous verrez après.
D'accord.
Bon,
okay.
Laissez-moi, parce que donc, il faut que j'enchaîne.
Oui.
Il n'y a pas de James Bond Girls pour l'instant dans les engins que je vous propose. Vous vous souvenez tous de la Lotus Esprit, du hors-bord de Bombay et de Russie, de la fameuse Rolls-Royce Phantom, du sous-marin totalement dingue qu'on voyait dans Les Diamants sont éternels, la Lotus aussi, sous-marine, dans L'Espion qui m'aimait. Est-ce que vous avez envie de les voir ? Vous avez envie de les toucher ?
Moi, je veux les tester, oui.
Bon, alors attendez déjà, allons-y étape par étape. On peut toutes les voir. Toutes ces voitures depuis 1962 dans une grande exposition qui a lieu jusqu'en mars au London Film Museum. Ça s'appelle Bond in Motion. Et comme j'ai bien compris que vous étiez très frustré parce que vous vouliez les tester, et ben figurez-vous que Max, on peut les conduire. On peut surtout aller sur le circuit privé d'Aston Martin à Millbrook. On est dans le nord-ouest de Londres.
Ça me plairait bien.
Et ça, vous propose, détrompez-vous, à partir de 150 euros.
Oui.
On se fait un petit cadeau. Non,
c'est un cadeau.
Et donc vous êtes au cadeau.
Agent
toute
secret,
la
pas, vous avez
journée avec un pilote chevronné, théorie, pratique. Donc à la fin de la journée, vous pouvez entre guillemets vous la péter, voilà, et vous allez pouvoir surtout voir la voiture de Spectre, l'Austin DB10 qu'on voit dans Spectre.
Mais imaginons qu'on ait nous envie de résoudre une enquête par exemple. Est-ce qu'on peut faire ça aussi dans votre week-end
Baker
à Londres
Street.
Mais évidemment. Alors, il y a une agence qui s'appelle Agent November qui organise des jeux de rôle grandeur nature. Vous êtes par équipe de 6 et on vous confie pour la journée une mission qui est assez bien ficelée, assez délicate. Vous avez des preuves évidemment à trouver. Vous utilisez des gadgets un peu à la James Bond et vous allez sauver donc Londres. Et pour approfondir, vous pouvez même aller voir cette expo permanente qui s'appelle Secret War à l'Imperial War Museum. Et là, vous découvrez toutes les petites histoires du MI6 et du MI5.
Vanessa, en 15 secondes, le carnet de route.
Bon, allez, hop, un visite Britain, vous allez trouver toutes les idées pour faire toutes ces balades donc touristiques. Les Brit Movie Tours, ne les oubliez pas parce que ce sont les seuls qui vous emmèneront justement sur les lieux du tournage dans les studios de Pinewood. Et un tout petit hôtel qui est un concept hôtel boutique à Mayfair, là où Ian Fleming, le père de James Bond, est né.
Évidemment.
Voilà. Et je vous donnerai la recette, surtout du vodka martini à la James sur le Facebook de l'émission.
Très bien, sur le Facebook de l'émission, tous les détails. Merci Vanessa. On va passer de James Bond à Marcel Pagnol. Je sais pas trop comment, Thierry Geffrotin, je vous l'avoue.
C'est la magie de la radio. Voilà, moi je vous emmène dans le sud. Marcel Pagnol en bande dessinée, c'est pas rien. La collection Grand Angle des éditions Bambou se lance dans l'aventure, c'est bien le mot. Les deux premiers volumes viennent de paraître, à raison de deux volumes par an, c'est à peu près tout Pagnol qui devrait être édité. Les premiers, c'est Merlus, un très joli conte que je vous conseille. En plus, le trait rappelle étrangement Tardi. Et puis, la gloire de mon père. Je dois vous dire, j'avais un peu d'inquiétude, parce qu'adapter Pagnol en bande dessinée, c'est une gageure, même si Pagnol, homme de cinéma qui pense en image, est un auteur idéal pour la BD, mais c'était quand même un sacré défi à relever, et surtout la gloire de mon père, que vous connaissez tous, vous l'avez lu, vous l'avez vu au cinéma.
Ben oui.
Eh bien, je dois dire que le trait, d'abord classique, mais assez moderne, c'est réussi, et puis surtout, les auteurs n'ont pas pris le parti de coller systématiquement au texte, qui n'aurait pas suffi, et surtout que dans la gloire de mon père, il y a beaucoup de descriptions, donc c'est très visuel, et puis surtout, il y a la tendresse, le sens du merveilleux, le sens de la satire aussi, qui sont bien là. Alors, il faut dire que c'est le petit-fils de Marcel Pagnol qui a supervisé tout ça. C'est vraiment, je dis vraiment, c'est réussi. Vous souvenez-vous, alors je pose la question à tous, mais je me tourne un peu vers Jean-Michel.
Oui,
vous souvenez-vous,
par quelle phrase
commence la gloire de mon père? Cette première phrase, c'est comme une porte que nous ouvre Marcel Pagnol pour nous faire entrer chez lui, dans l'intimité de son intimité, dans l'intimité de son enfance.
Attendez, je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, je crois, Garlaban.
Ouais, c'est bon ça.
Couronné de chèvres au temps des derniers chevriers.
C'est magnifique.
Mesdames, messieurs les auditeurs, évidemment, tout ceci est truqué.
Pas du tout. C'est ma mémoire extraordinaire.
Il l'a très bien dit, on le dit tous très bien, parce qu'on le dit avec le cœur, mais il y a quelqu'un qui le dit encore mieux que nous tous.
Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers.
Voilà, c'est Garlaban, Marcel Pagnol, lui-même, La gloire de mon père. Un court extrait, mais vous avez l'intégralité de La gloire de mon père en 4 CD aux éditions Frémaux et Associés. Et puis donc, en bande dessinée, La gloire de mon père et Merlus aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Pour la petite histoire, l'un des scénaristes s'appelle Scotto, Serge Scotto, et c'est un parent de Vincent Scotto, le compositeur qui a travaillé avec Marcel Pagnol.
Et voilà donc pour les coups de cœur de Thierry Geffrotin aujourd'hui.
Il est 13h50 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec votre soirée télé et les tendances du moment.
Oui, et les tendances, c'est avec vous Vincent Grégoire, vous cherchez comme ça pour le cabinet pour lequel vous travaillez, vous cherchez les tendances qui émergent. Et là aujourd'hui, les tendances dans l'art de recevoir.
Oui, c'est assez intéressant parce qu'en ce moment, il y a un besoin de revenir à la maison, de réinviter ses amis, de recréer du lien social, à nouveau d'être ensemble. Puis il y a aussi une volonté d'être créatif, donc de jouer avec les bonnes manières. Il y a un retour aux bonnes manières justement pour affronter ce contexte un petit peu chahuté, mais en les revisitant.
Et comment on les revisite concrètement?
Comment on les revisite? Par exemple, tous ces nouveaux goûters. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des brunchs,
oui,
le mélange
brunch,
de... Voilà,
oui,
bon,
les brunchs, oui, quand même.
Oui, voilà. Oui. Bon, ils sont moins à la mode. Il y a une nouvelle façon de recevoir, une façon d'imaginer le goûter le dimanche. Alors on appelle ça des slunch ou des drunch. C'est un mélange de souper et de lunch ou de dîner et de lunch.
Mais ça
veut
dire qu'on se retrouve vers quelle heure?
On se retrouve plutôt. On se retrouve vers 18h, 18h30.
On sort du lit.
Voilà, l'idée, c'est d'aller se coucher plus tôt.
Un apéritif dînatoire.
Ah, voilà.
En français.
Un apéritif dînatoire.
De manière à être en forme le lundi.
Oui, on commence tôt, donc on finit tôt.
Voilà, exactement. On peut aussi inviter, on a plutôt tendance à inviter aussi les enfants, rassembler tout le monde. C'est nouveau, c'est plutôt autour d'un buffet, parce qu'il y a de plus en plus de particularisme alimentaire ou confessionnel. Donc, voilà, comme ça, tout le monde peut picorer, choisir. On organise tout ça autour d'un thème qui est très souvent un ingrédient, ça peut être des raviolis, ça peut être la tomate, ça peut être la couleur aussi qui revient, tout autour du rouge ou tout autour du noir et blanc. Et
donc ça, on appelle ça donc des drunch ou des slunch.
Voilà, exactement.
D'accord.
Et il y a même alors aux États-Unis une nouvelle tendance chez les enfants, ce sont les goûters varicelle ou les slunch varicelle, où on invite un enfant qui a la varicelle et on invite tous les autres petits enfants qui n'ont pas eu la maladie
pour qu'il l'ait
de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème à l'âge adulte.
Donc, c'est très
anecdotique.
J'ai bien compris, mais c'est quand même sacrément tendu comme idée. Hein.
C'est curieux. Voilà, tous ces nouveaux goûters, ils sont un peu curieux. Et puis, il y a aussi tous ces nouveaux dîners où on revient aux bonnes manières. Donc, c'est Nadine de Rothschild, mais qui se lâche un petit peu. Non.
Nadine, j'ai eu peur.
On réenvoie des cartons calligraphiés, on s'habille. Là aussi, il y a un thème. Hein. Beaucoup de dîners de tête, un masque. Voilà, on joue avec ces codes-là. L'idée, c'est de favoriser des nouvelles rencontres sociales ou des nouveaux échanges. Il y a aussi beaucoup de tendances dans ces nouveaux dîners avec l'intervention d'un artiste, d'un poète, d'un écrivain à la fin du dîner, justement pour amener cette petite touche artistique et cette petite touche stimulante et énergisante et intellectuelle.
Vous faites ça, Jean-Michel ?
Non, il n'a pas dit de journaliste, c'est ce que j'avais dit. Si vous pouvez mettre sur la liste, voilà.
S'il y a des Jean-Michel gens qui se déplace.
À 18h, ding dong, c'est moi. Voilà. Je vous cite du Pagnol dans le texte, de mémoire. Enfin, c'est pas mal. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Ouais, ça peut être une option.
On soumettra au lanceur de tendance cette option.
Voilà, on va soumettre ça. Merci beaucoup pour cette tendance. En tout cas, merci Vincent Grégoire. Je sais, je devine qu'il y a encore plein d'autres choses. Malheureusement, on est un peu pressé par le temps et pressé par Eva Rock.
Oui, c'est vrai, parce que j'ai eu un coup de cœur, mais un énorme coup de cœur pour ce film documentaire qui s'appelle Par-delà les hauteurs. C'est sur l'équipe 21, c'est à 20h40. C'est à l'initiative de Frédéric Thiriez, vous savez, le président de la Fédération française
de
football.
De la Ligue de foot.
La Ligue de foot, pardon.
C'est professionnel.
Oui, c'est vrai, pardon.
Là, vous parlez d'un spécialiste.
Et Marc Battard, qui est un grand spécialiste de la montagne, 11 jeunes footballeurs et footballeuses des banlieues parisiennes se sont lancés un défi. Ils sont partis au Népal pour l'ascension d'un sommet de l'Himalaya, 5600 mètres. Alors, une expédition qui a été présentée aux jeunes et aux parents d'ailleurs comme un parcours initiatique, un apprentissage du bon vivre ensemble. Mais avant de grimper, il faut se préparer, alors physiquement surtout. Et puis il y a quand même les premières questions comme celle-ci.
Ils ont l'habitude avec les noirs là-bas. Non, je me posais la question de savoir si les Népalais n'auraient pas peur un peu de voir des noirs.
Alors vous voyez toute leur préparation, on sourit à les entendre évidemment, à aller voir 6 sur 2 au départ. L'arrivée à Katmandou, c'est d'ailleurs un premier choc, mais ils ont encore leur baladeur sur les oreilles, ils parlent fort, ils se provoquent. Mais très vite, on les voit souffrir, douter, avoir peur, mais être heureux de chaque effort accompli. Et plus étonnant encore, c'est leur vocabulaire qui change et leurs pensées qui se structurent.
La marche avant le Népal n'avait pas de vertu. Mais en marchant, c'est là que tu vois qu'on est obligé de se structurer. Se mettre des choses dans la tête, réfléchir. À force de dire que t'es bon à rien ou que tu ne vas pas réussir, au bout d'un moment, quelqu'un qui est faible dans sa tête, il va penser lui-même. Moi, je peux pas faire ça. Il se met des limites.
Alors, je vous laisse découvrir s'ils sont tous arrivés au sommet. Mais ces jeunes-là et l'équipe encadrante, ils vous offrent une leçon d'humanité. C'est entre sourire et émotion. Le film est un vrai petit traité de philosophie. C'est extra.
20h40, l'équipe 21, Par-delà les hauteurs. Votre bonus, Eva ?
En parlant de philosophie, je ne peux que vous recommander la rediffusion du portrait d'André Glucksmann dans la collection Empreintes. C'est sur France 5 à 21h40. Une heure pour tenter de comprendre l'homme et sa pensée. C'est un documentaire au cours duquel il disait « Je suis philosophe par la guerre. Je ne me suis pas mis à penser la guerre parce que je suis philosophe et c'est extra aussi. »
Voilà pour les choix d'Eva Rock. Merci Eva. Je voulais vous lire un tweet.
Mais allez-y, Maxime.
Avant de vous laisser, Europe Midi, une idée de base intéressante mais mal exploitée, beaucoup de clichés à la limite du ridicule mais de bonnes scènes d'action. C'est Manu qui nous envoie ça. Manu qui parle de James Bond, bien évidemment.
J'ai eu peur.
Merci. Merci.
Je me disais, mais c'est Manu, on va lui tirer les oreilles. Non, j'ai eu peur.
À demain, Jean-Michel.
À demain, avec plaisir, Maxime. À demain, Anissa.
À demain, Jean-Michel.
Nous nous retrouvons à midi pour une nouvelle édition d'Europe Midi et le moment est venu de laisser la place à Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Jean-Michel. Nous célébrons aujourd'hui un centenaire qui m'est particulièrement cher puisque c'est celui de Roland Barthes. Nous allons essayer avec les termes les plus simples, je vous le promets, d'évoquer l'une des pensées les plus puissantes, à mon avis, du XXe siècle.
Et vous y arriverez. Merci Franck, bonne émission.
Merci à tous. Si vous avez pris Europe Midi en cours, vous pouvez bien sûr retrouver toutes les chroniques et tous les rendez-vous de l'émission en podcast sur Europe1.fr. C'était Europe Midi présenté par Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Europe 1.